Let's go.
J'arrive genre dans 10 secondes. À tout de suite, bande de belles personnes. Ok, comme d'habitude, on coupe la musique complètement à l'arrache. C'est un peu une des signatures de cette chaîne où on n'a aucun respect pour la musique. Dans une autre vie, je n'aurais pas pu être DJ, ça c'est sûr. Je suis habillé comme l'as de pique. Ça aussi, c'est une autre signature de cette chaîne. Ça, le cadrage est complètement raté. On va zoomer un petit peu. Ça aussi, c'est la signature de cette chaîne. Ah, waouh. On racle la gorge, on éclaircit la voix. C'était bien la colo hier. J'étais pas en colo hier. Renan. Ah, la colo. Si. Ok, j'y suis. Hier, j'ai accompagné la classe de mon grand qui est en CP au musée. C'est ça que t'appelles la colo. C'était trop bien, c'était trop bien, c'était super. Oh là là. La capacité de concentration et d'attention. Non, pas coloscopie, Iris. Colonie de vacances. Colonie culturelle, musée. La capacité d'attention, de concentration de ces petits bouts de choux, c'est une dinguerie. Quel musée? Ah bah, Cyril, bonne question. Je ne l'ai pas dit hier parce que je ne voulais pas que... Je voulais pas que plein de gens viennent dans le même musée que nous. Les pauvres enfants. Donc du coup, maintenant, je peux vous le dire. Et c'est incroyable. Au musée Guimet. Oui, le musée Guimet où nous avons streamé il y a une dizaine de jours, voilà, et les hasards de la vie, incroyable les hasards de la vie, les hasards de la vie ont voulu que, quelques jours après, je vois dans le fil WhatsApp de l'école, des parents, tout ça, est-ce que des parents seraient partants, disponibles pour accompagner les enfants avec la maîtresse au musée Guimet. Je fais, le musée what? Le musée Guimet, ouais, bien sûr, je connais comme ma poche. Et donc, du coup, bah c'était là-bas, c'était génial. Et du coup, il y a plein de gens de l'équipe qui très gentiment sont venus me saluer. Et du coup, ça faisait un petit peu genre mode VIP, quoi. Tu vois. Mais tu connais le... Ouais, je connais. T'inquiète. Voilà. C'était super. La capacité d'attention de ces des enfants, c'est ouf, quoi. C'était super beau à voir. French Yu-Gi-Oh, merci pour les bits. Bobine, Bookin, merci pour ce 11e mois d'abonnement. Le Fuorikla Sport, je ne comprends pas ce pseudo, je l'aime beaucoup. Merci pour le 3e mois. Et le gentil message. Yes, on est en plein concours de journalisme. Ouais, bravo, force à toi. À l'instant, Amélie Flash, merci tout à l'heure pour le 4e. Que dis-je ? Le 21e mois, c'est énorme, on est au maximum. Non, on peut faire 22, je crois. Certains sont à 22 déjà, c'est énorme. Et Lilian, le beau gosse du 59, a été le premier à sub ce matin. C'était il y a 6 minutes, merci à toi. Jaco SGC, à l'instant, merci pour le 9e mois d'abonnement. Coucou Samuel, j'ai vu que tu allais pouvoir dormir plus tard l'année prochaine. Félicitations. Vous aurez noté les plus attentifs, les mieux informés. Ça va répondre à la question de Thibaut à l'instant dans le chat. Que gros zoom là, gros zoom, Sam, zoom zen même dans ta Benz. Pour ceux qui ont la ref, que je n'ai pas commenté, confirmé une information sortie dans le Parisien il y a quelques jours. Que je n'ai pas liké, retweeté aucun message allant en ce sens. Le suspense est intolérable. Je n'ai rien dit. Il y a des gens qui ont dit des trucs et ça m'a pas dit. Il y a Jacques a dit et puis il y a Sam a dit. Et c'est comme dans le jeu Jacques a dit. Quand Jacques a pas dit, ben Jacques il a pas dit. Et là ça m'a pas dit. Tout le monde me suit ou c'est juste je suis tout seul dans ma tête là. Aïka de Plante, je te plains parce que Je vois que tu m'écoutes en corrigeant ton mémoire d'archéologie que tu dois rendre demain. Je pense que ce genre de délire doit bien t'aider. Jaco SGC, je crois que je te remercie. Oui, mais je réponds à ta question. Je remercie French Yu-Gi-Oh pour les autres bits. Il se reconnaîtra. Et Bene85, merci pour l'abonnement que tu offres à la commune. C'est juste adorable. Allez, je vous lis un petit peu. Et puis alors, on file sur la revue de presse parce qu'une dinguerie de beauté, de super articles ce matin, ça part dans tous les sens. En vrai, c'est d'une régalade. Il y a des matins, tu te lèves, tu lis les journaux, tu fais ouais, oh là là, mais coucher, à pas faire de revue de presse, hein. Ça arrive. Parfois, t'es pas inspiré par les journaux, ou alors c'est les journaux qui sont pas inspirés, ça arrive. Même si tout ça est très subjectif, et puis là, c'est l'inverse, c'est feu d'artifice, des choses vraiment très intéressantes, et puis bien traitées, quoi. Nebgis, merci pour le 9e mois d'abonnement. Je vous lis. Et Sam, c'est bien en juillet que tu prends des vacances tranquille, à savoir si je me sub pour juillet ou pas. French Yu-Gi-Oh, je prends 3 semaines de vacances en juillet, je te confirme. Exactement. Merci Béné pour l'abonnement que tu prends pour toi. Merci pour le 14e mois d'abonnement, c'est adorable. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais annonce, hein. Ouais, grosse annonce là. Annonce, là, je redeviens sérieux parce qu'on est sur du sérieux. Je vous montre. Voilà. Ici, c'est la nuit. Ici, c'est Google. Ici, c'est Twitter. Touk. Papy Sam a tweeté il y a quelques minutes avant de lancer ce stream. Je n'annonce même plus sur Twitter quand je stream. C'est vraiment... voilà, c'est réservé un peu aux happy few que vous êtes. C'est un peu réservé aux gens qui savent. Voilà, on ne va pas annoncer à tout vent qu'on stream comme ça tous les jours. On dit hey, « Allez, let's go, viens et tout. » Je ne dis plus rien. Voilà. Et puis à un moment, je me demande si... s'il ne faut pas réduire un peu sa consommation de Twitter. Et en revanche, j'ai annoncé ceci tout à l'heure. Petite annonce, ici, à 22h, donc ici, pas ici là, hein, sur Twitter, rien de foufou, mais quand même. Voilà. Que vais-je annoncer ? Que va-t-il annoncer ? Quel est ce truc pas foufou, qui forcément va être une dinguerie, hein, voilà. Comment on appelle ça en... Quelle est cette figure de style d'ailleurs? Va donc, je ne te hais point. Ça, c'est quand on dit petite annonce, rien de foufou, alors qu'en fait elle est géniale. C'est un nom, ça, putain, question pour un champion. Une litote? Je devrais le savoir, ça. C'est une litote? Non, c'est pas. Je crois que c'est litote. Vous confirmez ou pas? Ah, vous dites euphémisme, vous? On va vérifier. Ah, bon, on va trancher. On va trancher dans le vif du sujet. Va donc. Tu tapes va donc chez Speedy. D'ailleurs, va, c'est un impératif, donc je pense que ça me prend pas d'aise. Va donc chez Speedy. D'ailleurs, c'est pas va donc, d'ailleurs, c'est va, je ne te hais point. C'est Chimène. Et donc, c'est. Est-ce que c'est une litote? Litote. C'est une litote, sans aucun doute, dit Bels Dingurt. Exactement. Voilà. Donc là, on était avec une litote. Donc. C'est. En plus, j'allais la faire. Il y a Théo Baldo qui écrit dans le chat tête de litote. J'allais le faire. J'allais le faire. Piquer mes blagues. Nul. La litote est donc une figure de rhétorique et d'atténuation qui consiste à dire moins pour laisser entendre davantage. Elle caractérise une expression de façon à susciter chez le récepteur. Donc là, c'est vous. Vous êtes des récepteurs. Un sens beaucoup plus fort que la simple énonciation de l'idée exprimée. Voilà. Alors, quel exemple est donné, par exemple? Est-ce qu'on a va, je ne te hais point? Ah oui, par exemple, exemple de litote. Devenu passé dans le langage courant. Vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas sans savoir, alors qu'en fait, vous savez, bien sûr. Voilà une chose qui n'est pas sans rappeler. C'est drôle. C'est l'inverse, bien sûr. Ok. Excusez-moi, je suis parti sur un délire. Voilà. Et donc, va, je ne te hais point, c'est le style Pierre Corneille. Et le va, je ne te hais point, bien sûr, veut dire va, je t'aime. Voilà, par exemple. Et donc je reviens à ma litote à moi, qui est beaucoup moins chic que celle de Corneille. Voilà, petite annonce ici, à 19h, rien de foufou, mais quand même. Pour en savoir plus sur le monde de la litote et sur cette annonce qui n'a rien de foufou, mais quand même qui donc est forcément un petit peu fofolle, eh bien rendez-vous à 19h sur Twitter. Ah, un petit SMS des équipes de questions pour un champion de bon matin. Je salue mes amis. Hop là, comment ça va vous? Je vous lis un petit peu, quelques minutes, quelques secondes, et on démarre cette revue de presse avec une avalanche d'articles vraiment sympas sur l'actualité. Je remercie Nausicaa66 pour le deuxième mois, le Rage Max pour le septième mois, et vous êtes formidables. Ok, Clamakin, je ne lirai pas ton petit commentaire sur la coloration des cheveux, puisque je vois que tu t'en prends à mon âge. Voilà. Par contre, je souhaite un bon anniversaire à Vlachande. Oui, ça oui. Tu dis 22h. Non, tu t'es trompé, c'est à 19h. Ah oui, c'est 19h. Hein. J'ai dit 22h à un moment, je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis en décalage horaire avec moi-même de 3h, ce qui est très étrange. C'est que peut-être que mon corps est là et mon esprit est ailleurs. Ça voudrait dire que je suis très fatigué. C'est bien 19h ce soir. Non, tu n'arrives pas trop tard pour le sommaire, Néo Vavec. Ce stream a été lancé il y a 15 minutes, 5 minutes de musique, ça fait à peine 10 minutes qu'on cause. Autant dire, en temps Twitch, 10 minutes en temps Twitch, c'est une seconde et demie à peu près. Hein. Une revue de presse dure 3 heures au lieu de 5 minutes. et ainsi de suite. Je remonte dans le chat pour lire quelques messages. J'adore qu'à 10h12, un mardi matin du mois de juin 2023, nous échangeons sur la définition de la litote. Est-ce que ton annonce sera meilleure que la conférence d'Apple hier, dont on parlera, Nico Manga, avec l'histoire du truc, là, le casque là, de VR là bien sûr que cette annonce de 19h sera bien plus forte que toutes les annonces d'Apple, même j'ai envie de dire ever. C'est-à-dire que l'iPhone, les écouteurs, je n'en ai qu'un ce matin parce que j'attends une petite visite en lien avec mon stream assez exceptionnel de vendredi prochain. Et autre bilvesé inventé par Apple, évidemment que l'annonce de 19h sera plus forte. Oui, je vous lis. Ok. Ça a parlé sécheresse ce matin. Pas ce matin. On aura l'occasion d'en reparler, mais... pas ce matin. On espère qu'elle coûtera moins cher surtout. Ah oui, c'est vrai. Alors oui, je peux vous rassurer que mon annonce de 19h coûtera moins cher que les, je sais plus, 3, c'est presque 4 000 dollars, 3 900 dollars, c'est ça, du casque là. On dit masque ou casque, on verra tout à l'heure, on lira un article là-dessus. D'Apple. Ouais, enfin moins cher, ça dépend pour qui. Oui, vendredi prochain avec Kayane. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est 3 500 $. Ah, ça va alors. Vous êtes plusieurs à me corriger. Non, c'est pas 3 900, c'est 3 500. Oh, pardon. Oh, bah alors oui. Vous m'en mettrez 10. Hein, c'est pour la famille, c'est pour les amis. On dit casque tant ça ne couvre pas la bouche. Ok, casque. Vous êtes sûr. On est sûr que. Vous fâchez pas. Les gens disent, ah, Samuel, on dit pas masque, on dit casque. Tu seras en vacances en août aussi ? Oui, mais pas de Twitch. Je serai en vacances du reste. C'est-à-dire que la dernière semaine de juillet, les 4 semaines d'août, ça va streamer genre tous les jours. J'espère que mon épouse n'entend pas le début de ce stream. Tous les jours et avec de temps en temps un petit jour off pour s'occuper de la famille. Quoi. On va parler de Disney Paris, du conflit social. Alexandra à Disney Paris, on va en parler. Ouais. Mam Gohanag, Samuel, pourrais-tu faire un bruit très très fort pour réveiller mon mari qui s'est encore réendormi après le petit-déj. Oh, non, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme... Oh non, je sais pas quoi dire. Et puis je ne sais même pas quoi... Donnez-moi une idée de phrase que je pourrais dire très très fort pour réveiller le mari de notre ami, là. Hein? Un yeah baby, ouais, on va le chercher. Ok, ouais, merci. Merci Sarah, c'est une bonne idée. On va chercher le yeah baby pour ton mari. Vas-y, rapproche le téléphone ou l'iPad ou la tablette ou les enceintes du PC des oreilles de ton amoureux et c'est parti pour un yeah baby qu'on va chercher parce qu'il faut plusieurs essais. Vous êtes prêts?
Well, yes.
Bon, ça va pas réveiller ça.
Yes.
Un peu plus.
Give me a why, give me a need, give me a...
Là, il dort plus, là. Elle a ouvert une paupière, là. Il fait quoi? Hein? Et attends, on l'achève?
Yeah.
On l'achève?
Yes.
Et il va arriver le...
Well, yes.
Il est là. Je sens qu'il est là.
Yes.
Non, c'est pas... C'est là.
Yes, 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 yes.
Non. Là.
Yes.
Mais non, mais il est où? Il est là.
Yeah, baby.
Il est là. Et là, ton amoureux est réveillé. Et il a entendu ce yeah, baby, qui est juste génial. Et en plus, il s'est réveillé de bonne humeur, ce qui est formidable. Mister Mayhem TC, je crois que je ne t'ai pas remercié. Je te dis merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Nausicaa 66, le Rage Max. Je pense que je vous ai déjà dit merci, mais je ne sais plus parce que je vieillis. Donc je vous redis merci. On ne sait jamais. Bien sûr qu'on va parler de la 14e journée KBD Ninja de mobilisation contre la réforme de retraite. On va même commencer par ça. French Yu-Gi-Oh, merci pour les bits. Ça a bien changé la revue de presse. Oui, c'est une revue de presse. C'est un peu. C'est une revue de presse. On ne lâche rien sur le fond. Voilà, on essaie de s'informer au mieux, des informations importantes, avec des articles de qualité, mais on fait pas mal de petits pas de côté, effectivement, et on dit pas mal de conneries, en fait, voilà, pour histoire de prendre un peu de champ par rapport au côté extrêmement anxiogène de l'information et les informations que je vous rapporte. Donc on dit pas mal de bêtises aussi, ça fait du bien. Et on boit du café aussi, on boit ce qu'on veut. Ici c'est la démocratie, on boit ce qu'on veut. Lumière soleil, je te reconnais maintenant, c'est toi qui parles sans arrêt d'amour dans le chat, qui me demandait, mais je crois que une des dernières questions que tu as posées, c'est mais comment on trouve l'amour quand on est adulte. Une question très intéressante qui nous a occupé quelques minutes de débat ici. Lumière Soleil qui écrit, grâce à Samuel, je vais rencontrer le grand amour. Je connais tous les secrets de l'amour grâce à Samuel. C'est vrai que c'est un des trucs que je connais les secrets de l'amour. C'est vrai que un jour, il faudrait que j'écrive un livre, un petit livre, hein, un truc en 25 tomes sur les secrets de l'amour pour partager cette connaissance des arcanes, hein, des secrets, des mystères, j'ai envie de dire, de la chose amoureuse, de la chose amoureuse. Voilà. Non, ne demande pas ChatGPT comme le propose Ivar, demande à Papy Sam, c'est bien mieux. Et achète mon livre en 25 volumes. Je rappelle que l'intégralité des bénéfices, d'ailleurs, je voulais vous le dire, de ce livre en 25 volumes que j'écris un jour sur l'amour, l'intégralité des bénéfices de cette somme sur l'amour, de cette encyclopédie du love, j'ai envie de dire, l'intégralité, je le répète, de ces bénéfices me seront reversés. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours, qui n'est pas commun, donc je voulais vous le dire. Voilà. Et ben, voilà. Prêt ? Elle était bonne cette connerie. On y va ? Théo Baldo, comment tu fais pour garder la bonne humeur avec tous ces articles quotidiens qui plombent ? Un, je me suis habitué. Deux, je sais que dans le reste du monde, il y a plein de belles choses, de belles histoires d'amour, d'amitié, d'humanité qui ne sont pas dans les journaux. Et donc, voilà, et que ce n'est que l'écume de nos malheurs, mais que la vie est ainsi faite qu'elle est aussi faite de joie, de sourire, de lumière, de bonheur. Et que ces moments-là qu'il faut chercher et chérir. Et il faut en profiter. Donc je pense à ça. Et puis vous faites bien passer la pilule aussi parce qu'on rigole bien. Non, merci. Nausicaa, ça me touche sauvagement ce que tu dis là. Ma phrase est bizarre, mais voilà, ça veut dire que j'ai beaucoup aimé ton commentaire. Ronan, j'ai les cervicales bloquées, me dis-tu, let's go. Moi aussi, mais je me suis habitué. C'est la vieillesse, c'est la vieillerie. C'est la décomposition lente du corps. Hein. Voilà. Bon, let's go, c'est pas tout ça. Hein. On va arrêter de parler de médecine. Et je vais vous montrer, on a un milliard de trucs. Je n'ai pas du tout testé ma caméra zénithale, qui est là, qui est au zénith. C'est pour ça qu'elle est zénithale avec un Z. Z comme Zorro. Z comme Zazou. Donc on a un suspense de fou. On allume la caméra zénithale. Je ne sais pas du tout si elle cadre les journaux. Ouais, c'est pas mal. Pousse-toi, petit micro. Et voilà, hop, je pousse un peu pour ceux qui sont là pour la première fois. Sachez que dans la matinée Étienne, on lit les journaux, parfois en version numérique, parfois en version papier. On aime tout du moment que ça se lit. On lit un peu moins les dos de paquets de céréales, même si quand j'étais jeune, c'était une passion que j'avais. Je pouvais rester des heures à m'abîmer, à m'oublier dans la lecture des paquets de céréales. Je ne sais pas pourquoi, j'adorais ça. Je ne le fais plus. Et par contre, je lis les journaux. Donc un petit sommaire, 10 minutes, comme ça vous avez l'essentiel de l'actualité. Et puis pour ceux qui ont un peu de temps et qui veulent comprendre le monde dans lequel ils vivent, eh bien on les lira ces articles. Ça c'est super, bravo Libération. Vous ne connaissez pas ce monsieur, je pense. C'est l'un des principaux opposants au pouvoir de Vladimir Poutine en Russie. C'est un russe, un opposant, il est en prison. Et il a fait parvenir une lettre à l'extérieur, il a réussi. Et Libération a réussi à obtenir, avec l'accord de sa famille, sa lettre. Vladimir Kara-Murza, c'est le nom de ce monsieur. Je vous écris depuis les geôles, depuis les prisons de Poutine, dans un courrier transmis à Libération, l'opposant au Kremlin, condamné à 25 ans de détention. 25 ans de détention, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a découpé, il a tué des gens, il les a découpés en petits morceaux ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, il a dénoncé la guerre en Ukraine. Ok, 25 ans de prison. Appelle de ses voeux une Russie délivrée de Poutine. Ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que ce monsieur qui croupit dans une prison russe pour 25 ans, eh bien, dans cette lettre, il parle de quoi ? Il ne parle pas de lui. Il ne se plaint pas. Il dit qu'il ne faut pas perdre l'espoir qu'un jour, la Russie sera une démocratie, une grande démocratie. Et lui rêve de ce jour. Voilà ce qu'il a dans la tête. D'où l'édito ici de Dove, elles font courage. Je trouve ça magnifique. On se penchera bien sûr sur cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. J'ai 3 articles à vous lire ce matin. Un dans Libération. Est-ce que c'est un barouf d'honneur, non pas un baroud d'honneur ? Joli jeu de mots de Libération, parce que les syndicats espèrent faire du bruit du barouf. Est-ce que c'est un barouf d'honneur pour la mobilisation ? Est-ce que c'est la fin du mouvement cette 14e journée ou pas ? Donc pas mal de journaux se posent la question. La plupart ont une réponse, vous le verrez. On lira Libération, on verra on ira à l'humanité à ce propos. Elle n'est pas du tout d'accord. C'est absolument pas ni un baroud ni un barouf d'honneur. Ça n'est pas terminé. C'est la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui donne une interview à l'humanité, qui dit cette réforme ne doit pas s'appliquer. Elle parle de la réforme des retraites, bien sûr. Ces derniers jours, vous avez été plusieurs à me demander de vous parler du conflit social actuellement à Disneyland Paris. Galactique Saint 97, je t'emmerde. Tu vois que je te parle pas comme un enfant qu'à 5 ans. Il y a Galactique 5 qui vient ici pour la première fois. C'est la première fois parce que Twitch me le dit. Et qui écrit dans notre chat, c'est le mien, c'est le vôtre. Pourquoi vous lisez comme si vous adressiez à un public de 5 ans ? C'est comme ça que je lis en fait. C'est, voilà. Et donc manifestement, tu es venu, ça ne t'a pas plu. Tu t'en vas. Merci pour ce commentaire extrêmement agressif. d'ailleurs. Si tu aimes le royaume des personnes de 5 ans, eh bien tu as Disney qui t'attend, sauf que en ce moment c'est un petit peu tendu, quoi. Donc je t'emmerde, voilà. Pardon, excusez-moi, on était en train de parler de choses sérieuses avant que quelqu'un vienne nous agresser gratuitement, mais tu t'es cru que t'étais sur Twitter ou quoi? Sérieux, ça, c'est fou ça. Comment, à quel moment tu viens pour la première fois sur un stream? Il y a des dizaines, il y a des centaines de streams actuellement là en France, là, des milliers, des dizaines de milliers dans le monde. Tu viens sur ce stream et le premier commentaire que tu écris, c'est un truc agressif. Mais va te faire foutre. Un moment, va te faire foutre. On m'appelle, il faut peut-être que j'écoute les messages, je vais écouter ça après. Donc on parlera de cette grève à Disneyland. Et puis, putain, puisqu'on parle de conflit social, première grève dans l'e-sport. Attends, je vérifie juste si j'ai pas un coup de fil de ma livraison de ce matin qui est importante. Bon, bougez pas. Quelqu'un qui essaierait de livrer un colis, a priori non. Je dis que quand quelqu'un ne laisse pas un message, c'est que c'est pas important. Une grève dans l'e-sport aux États-Unis. Voilà. Jeux vidéo face à un plan de licenciement. Les joueurs professionnels de la scène états-unienne, donc aux États-Unis, de League of Legends, ont refusé de reprendre le championnat. Vous avez. Alors, il y a LL qui dit, mais qui n'est pas d'accord, qui dit non, c'est pas LL, c'est du Brutes. Comment ça, première grève dans l'e-sport, il y en a déjà eu plein? C'était la question que je voulais vous poser en fait. Et en fait, pour l'UMA, c'est la première grève dans l'e-sport aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Aux États-Unis, hein. Ça, bon, moi, j'ai pas la ref là-dessus, mais je trouve ça intéressant, quoi. Donc, ça se passe dans l'univers de LOL, de League of Legends aux États-Unis, et c'est vachement intéressant cette histoire. On en parlera tout à l'heure. Hop. Ça, c'est Libé, ça, c'est l'humanité. On prend la croix, qui nous parle aussi de la réforme des retraites, la réforme malgré tout, c'est-à-dire 14e journée de la mobilisation contre la réforme des retraites, mais la réforme malgré tout, elle a été promulguée. Cette réforme, alors certes sans être votée 49.3, mais elle a été promulguée. Les premiers décrets d'application sont en train d'être pris. Voilà. Donc, c'est ce que nous dit la Croix. La réforme, malgré tout, il peut y avoir toutes les mobilisations du monde, la réforme, elle est passée. Il y a un édito là de la Croix qui est assez sauvage, en fait, qui dit que tout le monde s'y est un peu mal pris dans cette histoire. Tout le monde, c'est-à-dire le gouvernement, bien sûr. Mais aussi quelque part le Parlement et les oppositions. Multivers, une jolie plume, celle de Jérôme Chapuis, qui est le directeur de la rédaction de La Croix. Je pense que vous aimerez bien ça. Donc, beaucoup de papiers ce matin sur la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis, hier, il y a eu des annonces vers 17h qui étaient extrêmement attendues du gouvernement sur la crise du logement en France. Voilà. Promulguer ne veut pas dire accepter ou acceptable. Sacrode, on est tout à fait d'accord. Promulguer, c'est juste un terme juridique. On est bien d'accord. Donc des annonces très attendues sur le logement. Hier, il y a une vraie crise du logement en France. L'immobilier qui est trop cher, les gens qui n'arrivent pas à se loger, les loyers qui sont trop élevés, un cercle vicieux, les gens ne peuvent plus acheter avec les taux d'intérêt qui remontent. Enfin, beaucoup de personnes ne peuvent plus acheter avec les taux d'intérêt qui remontent. Du coup, ils restent dans leur logement, qu'ils louent. Et du coup, les appartements ou les maisons à louer sont moins nombreuses. Bref, c'est une catastrophe. On attendait le secteur, en tout cas de l'immobilier, de la construction, attendait des mesures fortes hier et a été très déçu. Donc on lira ça avec un papier assez étonnant des Échos, en mode, c'est bien cette crise. C'est bien cette crise du logement en France, là, que ce soit bien galère. Parce qu'en fait, peut-être que tout ça va faire baisser le prix de l'immobilier. Et que du coup, ça va rendre le logement plus abordable en France. Bon, c'est une analyse qui est surprenante, mais pourquoi pas? Je voulais vous la soumettre. Je vais vite parce qu'on est dans le sommaire. On ne marque pas la culotte le chef de l'État et si le président, on n'épie pas ses moindres faits et gestes. Voilà. Là, j'ai hésité. Bon, il y a des déplacements en ce moment du président Macron. Voilà, ici, hier, c'était en Normandie, au Mont-Saint-Michel, pour les 1000 ans de l'abbaye. Y en a d'autres sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale en ce moment. Donc, le Figaro nous fait un article sur Macron qui invoque l'histoire, vous le voyez, pour faire oublier la crise. L'échappatoire de la mémoire. Bon, c'est pas inintéressant. En même temps, ça change pas la face du monde. Mais si on a le temps, on le lira. Merci. Salut Léo, tu es 35, qui pose une question très importante et très très bonne question. Première fois que je regarde, salut. Vas-tu préciser la couleur politique des journaux que tu lis ? Oui, ici, on ne cache pas. Alors, couleur politique, j'aime pas ce mot parce que les journaux ne sont pas liés à un parti en particulier. Mais on ne cache pas la ligne éditoriale des journaux, voilà, et, pour une raison assez simple, c'est que la plupart ne le cachent pas non plus. La Croix ne cache pas, certains ont parlé dans le chat d'être un journal de valeur catholique et chrétienne, mais qui s'intéresse à beaucoup plus de choses que la simple question de la religion, avec un regard beaucoup plus humaniste que certains pourraient imaginer. Le Figaro ne cache pas d'être un journal conservateur, sinon traditionnaliste sur certains sujets. Libération d'être un journal de gauche, au contraire, le clame fièrement, l'humanité longtemps proche du Parti communiste, l'opinion un journal libéral, etc. Donc bien sûr, je le signale de temps en temps quand la question m'est posée, même si on me dit souvent je ne veux pas vous saouler avec ça. Après, il y a des journaux qui ont des lignes éditoriales qui sont moins définies, voilà. On en a parlé à propos du Parisien et du Monde récemment, mais évidemment qu'on ne cache pas ces infos, c'est important pour décrypter l'information qui nous est proposée. Il faut toujours, quand vous lisez une info, il faut toujours vous demander d'où elle vient, d'où vient cette info, qui me la donne, qui est l'émetteur, voilà, derrière un compte Twitter, derrière un compte Facebook, derrière une chaîne YouTube, derrière un stream, derrière un journal papier, derrière un 20h, qui me parle, avec quel filtre, avec quelle valeur, quoi. Une question très importante. L'équipe, alors je pourrais parler de plein de choses, du mercato de poste fin de championnat de Ligue 1, de Roland Garros, et moi j'ai choisi de vous parler d'Ibrahimovic. Voilà. Zlatan Ibrahimovic, pourquoi ? Bah parce qu'il a pris sa retraite. Il quitte non pas son club, mais il quitte le football. Hein, je crois qu'il a 41 ans de mémoire. Ouais, 41 ans. Et hier matin, on a vu une séquence mais hyper émouvante d'Ibrahimovic, que pas trop un mec qui s'est mis en avant qui a mis en avant ses faiblesses, sa fragilité et ses pleurs, et qui était en larmes avec le visage de ses coéquipiers qui étaient également extrêmement touchés, et puis qui a eu des mots assez forts, quoi. Voilà. Donc c'est fini pour... il ne zlatanera plus, nous dit Exutoire, exactement. Et ce qui m'a intéressé dans ce portrait, c'est qu'il y avait en peu de mots un beau résumé de sa carrière. C'est bien écrit. Merci Régis Testelin. Et la chute du papier nous rappelle d'où vient Zlatan. D'où vient Zlatan Ibrahimovic, son enfance, voilà, les conditions pas faciles, et comment il s'est construit malgré ses débuts dans la vie qui étaient un peu compliqués. C'est ce qui m'a intéressé. Ça n'est pas tout, il y a plein de choses. Vous êtes quelques-uns depuis ces dernières semaines à m'avoir interrogé sur Kick, la nouvelle plateforme venue concurrencer Twitch. Bon, moi, j'avais lu là-dessus ce qu'en disaient les réseaux sociaux avec... le fait que le groupe propriétaire a une activité dans les casinos en ligne, que manifestement, très bonne blague, pas d'Ibra, pas de chocolat, c'est une blague signée Moto 925. Pas d'Ibra, pas de chocolat, pas mal. Et donc, Kick avec aussi une modération, souple, voilà. Donc j'ai vu ce qui s'en disait sur les réseaux, notamment de la part d'autres... streamer, j'étais assez surpris de trouver un tiers de page dans le Figaro Économie, s'il vous plaît, sur cette nouvelle plateforme qui entend concurrencer Twitch. Voilà, une modération modérée, on peut dire, dit Daruxan, on va dire ça comme ça, quoi. Il y a Xana qui dit « Samuel, vas-tu un jour répondre à ma question ?» Je ne sais pas laquelle, mais je vais dans ton historique. Xana, t'as intérêt à ce que ce soit une question cool, hein ? Pas comme l'autre... Esservelé qui est venu nous agresser tout à l'heure. Quelle est ta question ? Je remonte dans le chat. Samuel, vas-tu répondre un jour à nos questions ? Mais elle est où ? Je remonte dans l'historique, il n'y a pas de question. Ah ! Je crois que ta question, posée à 10h18, c'est « Vas-tu nous parler du fait que l'oral du brevet, c'est demain et qu'aucun troisième n'est prêt ?» Mais c'est quoi cette question ? C'est quoi l'histoire ? Tu es en troisième ? Tu m'étonnes que si tu es sur ce stream... Plutôt que réviser ton brevet, c'est sûr que tu vas pas être prêt, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est drôle, ça. Elle est drôle, ta question. Donc, voilà, j'en ai parlé. Donc, normalement, tu devrais être super heureux ou heureuse. Elon, merci pour le Prime. Valenours, merci pour le Prime également. French Wanderers, incroyable. French Wanderers arrive, écrit, mot pour mot. Hello la team, je viens d'arriver. Est-ce que vous avez parlé du nouveau casque VR d'Apple? On est à la fin du sommaire. Voilà, je prends le dernier article dont je voulais vous parler. C'est dans le Parisien, c'est page 7. Et qu'est-ce que j'ai dans le Parisien, page 7? Apple lance le casque Vision Pro. French Wanderer, on aurait voulu réussir ce move là. Genre, t'arrives, tu poses la question, je montre l'article, on n'aurait pas réussi. On aurait pu le répéter 1000 fois, ça n'aurait jamais marché, quoi. Incroyable, on est connecté, il y a un truc. C'est de folie. Et tu dis, ah, je suis devin. Non, tu n'es pas devin, tu es de chair et d'os, et un peu d'eau comme nous tous. Tu n'es pas devin, le vin c'est très bon avec modération, mais tu n'es pas devin, tu es de chair et d'os. Désolé, je suis fatigué, donc les blagues seront à peu près à ce niveau-là aujourd'hui. Et Cyril fait la même, donc du coup je me sens pas tout seul. Cyril qui écrit, si tu étais devin, on te boirait. Ok, bon, du coup j'applaudis puisque c'était ma vanne. On est au même niveau, c'est-à-dire c'est pas terrible. Bof, 10 sur 20. Je peux faire pire. Il y a Marston qui m'a mis 10 sur 20 pour la blague. Je peux faire pire. On va parler de la fameuse dictée géante. Non, pas trop, French Guillaume. Pourquoi ça t'intéresse? J'ai vu des papiers. Je sais pas, ça m'a pas trop inspiré ce truc. Je sais pas, non. Si, il faut en parler, c'est important. Alors là, Cyril, c'est très méchant, mais ça me fait rire quand même. Cyril qui écrit, tu n'imagines même pas les efforts que je fais pour descendre à ton niveau de blague. Je répète plus doucement, tu n'imagines même pas les efforts que je fais pour descendre à ton niveau de blague, Samuel. Incroyable. C'est vraiment très méchant. Tu étais nul en dictée? Ah non, en dictée, j'étais super fort. C'était en blague, j'étais pas fort. En blague et en foot, j'étais pas très très fort. Voilà. Et en dessin aussi. En troisième, dernière année où on faisait du dessin... quelqu'un part du Guinness des records. Moi, je pense que j'étais dans le Guinness des records. J'ai eu 1,5 de moyenne sur 20 à l'année en dessin. C'est-à-dire que je rendais un dessin sur deux, parce que une fois sur deux, j'avais pas le temps de le finir, j'y arrivais pas. Quand je rendais un dessin, j'avais 3, et comme je rendais un sur deux, j'avais 0 à l'autre, ça faisait 1,5 de moyenne. Et la prof qui était gentille, je me rappelle, elle est venue me voir à la fin de l'année, gentille. Elle m'a dit, Samuel, je vois que tu t'appliques. Je vois que tu fais des efforts. Cool. Je n'ai jamais vu, pourtant elle avait un certain âge déjà, je n'ai jamais vu un élève aussi peu doué que toi en dessin. Je le savais, moi. Hein. Elle m'aurait demandé au début de l'année, on aurait gagné du temps. Hein. Donc, voilà. Bac C 1989. Comment tu sais ça, Bizox, que j'ai passé un bac C, maths physique, en 89? Comment tu sais ça, toi? Bien informé. Hein. Et puis, c'est pas tout, parce que j'ai farfouillé dans le monde aussi. Autant dire que cette revue de presse va durer 15 heures. Est-ce que ça va marcher? J'ai rien testé. Là. Ouais, ah bah super. Dans le monde, des petits trucs sympas aussi. Dernière édition du Monde, une histoire de fou. Vous avez peut-être entendu parler de ça. La recherche d'enfants perdus dans la forêt amazonienne tient la Colombie en haleine. C'est une histoire de fou. L'inattendu succès de Trash Talk, le site impertinent consacré à la NBA, le média français aux côtés sale gosse assumé, créé en 2012 autour du basket américain, sur 1 million de followers sur les réseaux sociaux. Ça fait un moment que je vois passer des trucs de Trash Talk, là, que j'ai bien compris que ça parlait de basket, mais en vrai j'ai jamais trop compris ce que c'était. Enfin, grâce au Monde, vous savez, les journaux s'intéressent vraiment à tout, vous avez vu, hein. J'ai compris à peu près de quoi il s'agissait, l'histoire un petit peu de ce site, qui sont les personnes qui l'ont lancé, et j'apprends que les gars là de Trash Talk dans l'article du Monde là, eh ben ils ont passé un petit deal avec France Télévisions pour tout le monde est au courant sauf moi. Il y a Bobo Adrien qui dit ils vont commenter la Coupe du Monde sur France TV. Ouais. Alors d'après ce que j'ai compris, sur la plateforme numérique de France Télévisions. Donc peut-être sur Twitch. Voilà. Incroyable. Putain, certains étaient déjà au courant, quoi. Mais comment vous savez déjà tout ça, vous? Ils sont au courant. Je viens de l'apprendre. Ok. Donc on lira ça. Donc des petites choses dans le Monde aussi. Vous avez vu? Là, on va y aller directement parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'articles, quoi. Ouais, Samuel Vimer, là, qui est en train de se raconter, là. Samuel, voilà. J'avais 20 sur 20 en art plastique au collège, la prof a gardé tous mes dessins. Sérieux? Je regarde si on met des... qui m'appelle. J'attends un paquet important pour le stream de vendredi. Je relis le message de Samuel, là. Joli prénom pourtant. J'avais 20 sur 20 en art plastique au collège, la prof a gardé tous mes dessins. Qu'est-ce qu'on a à branler, un moment. Samuel, un moment. J'adore. Félicitations, je sais pas comment tu fais, moi je... Nul, j'ai un problème avec mes doigts en fait. Mais avec mes yeux aussi, je pense les deux. Captain McBernick, Samuel il s'est levé ce matin, il a choisi la violence. Non mais l'autre qui m'a énervé là tout à l'heure, là, qui vient pour la première fois, premier commentaire en tout cas dans le chat. Là. Non mais pourquoi tu parles aux gens comme s'ils avaient 5 ans? Pff, mais... Sérieux quoi. Il m'a vraiment mis le... Comment on dit, une expression sympa pour dire il m'a mis en colère. Que je puisse placer pour faire un petit peu jeune dans une conversation urbaine. Ouais, entre gens comme ça... négligemment accoudé à un élément urbain dans le paysage. Le seum, la rage, il m'a broyé les... Attendez, j'ai plein de propositions sympas. Attendez, on va se régaler là. Attends, le chat est en folie. Attends, donc il m'a mis le seum, ouais. Attends, j'avais quoi? J'avais, il m'a fait rager, j'ai le mort. Il m'a mis le démon, ok, ouais. Il m'a mis le... Ah, il m'a mis le démon. Ah, ça a l'air bien, ça, je connaissais pas. Il y a Ad qui propose, il m'a broyé les couilles, ce fils de pute. Ok, d'accord. Mais alors, il m'a mis le démon, je connaissais pas, quoi. Non, les crampetés, c'est fini, c'est interdit. Je crois qu'il y a des amendes maintenant pour les gens qui disent, t'as les crampetés, tout ça. Il a collecté mon ire. V'là Chande. Et v'là la culture. Dis donc. C'est Étoile, c'est Rayou qui a pris un pseudo, qui est dans le chat, là. Il a quoi que... Il a collecté mon ire dedans. Il m'a cassé les... Oui. On dit trigger ou trigger? Trigger? Attends, le vieux machin. Il m'a trigger. Il a fait... Ouais, je suis... Ouais, je suis... Oui, il m'a... Oui. J'ai la bile au bord des yeux, c'est pas mal. J'aime bien, il m'a mis le démon. Ouais. Ouais. Il y a Ogmios qui écrit, hein, j'adore ça, à jouer avec les couilles du dragon, on finit avec des cloques. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Il y a trop de messages dans le chat, c'est-à-dire que ça bug. Trigger, d'accord. M'a cassé le berlingot, j'ai peur qu'on soit sur autre chose là. Poisson, je pense que tu fais un contresens là, non? M'a cassé le berlingot, j'ai peur que ce soit autre chose, mais bon. M'a mis le démon, j'aime bien ça. Ouh, je vais le replacer ça dans un entretien à haut niveau là. Hein? À un moment, je vais le placer ça. Ok, c'est parti pour la revue de presse. On va redevenir un petit peu sérieux et on va éviter de vous parler comme si vous aviez 5 ans. Merci beaucoup de Roma 110 pour le Prime. Aokayas, merci pour le 11e mois d'abonnement. 11 mois comme 11. 11h-22 de Wolf Unit, merci pour le 4e mois d'abonnement. Edwin, merci pour le Prime. Aelon Valounours, je ne sais plus si je vous ai dit merci comme d'habitude, mais je le refais. Let's go! Bon, ça c'est incroyable. Cet article est fascinant. On va saluer le courage d'un homme grâce à Libération. Vous ne connaissez sans doute pas ce visage. J'avoue que je ne le connaissais pas non plus. Libération nous le présente comme l'un des principaux opposants au pouvoir de Vladimir Poutine en Russie. Il s'appelle Vladimir Kazamurza. Je vous écris depuis les geôles, les prisons de Poutine. Et voici l'explication de cette une. Dans un courrier qui a été transmis à Libération avec, je le précise, l'accord de la famille. L'opposant au Kremlin condamné à 25 ans de détention pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Ok. Appelle de ses voeux une Russie délivrée de Poutine. Et vous allez voir le courage de ce monsieur, c'est assez incroyable. Lisons l'édito qui résume très très bien l'histoire, très bien écrit comme souvent avec Dove Alphon. Je vous lis ça. Il a perdu plus de 22 kilos en un an de détention. Vladimir Kara-Murza, l'un des opposants les plus virulents à Vladimir Poutine et son régime, sera encore une fois jeudi dans la cage qui sert de boxe pour les accusés dans les tribunaux russes. Il avait été condamné en avril à 25 ans de prison pour avoir dénoncé l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De temps en temps, il y a des gens qui nous disent beaucoup de bien de la Russie. Ils disent « oui, ça, c'est une vraie démocratie, tout ça ». Ouais, d'accord. Sa réaction face à cette mascarade de justice mériterait de rester dans les annales. Qu'a-t-il dit devant la justice russe ? Je souscris à chaque mot que j'ai prononcé. Je ne me reproche qu'une chose, qu'au cours de toutes mes années d'activité politique, je n'ai pas réussi à convaincre assez de mes compatriotes et assez de responsables politiques des pays démocratiques du danger que le régime actuel du Kremlin représente pour la Russie et le monde. Je souscris à chaque mot que j'ai prononcé. Aujourd'hui, dit-il encore, c'est devenu clair pour tout le monde, mais à un prix terrible, le prix de la guerre. Pour lui aussi, écrit Libération, le tribut est lourd. En détention provisoire, il a déjà frôlé la mort. Il n'y a pas que la prison. À deux reprises, après avoir été empoisonné en 2015 et 2017, tentatives d'assassinat qui lui ont laissé de graves séquelles et qu'il impute au pouvoir russe. Et maintenant, on va s'ajouter pour cet opposant de longue date la perspective d'un envoi prochain dans une colonie pénitentiaire lointaine. Son appel devrait confirmer cette sentence. Et une santé toujours plus dégradée. Sa lettre de prison, envoyée juste avant son jugement à Jacques Maire, qui est un ancien député français et ancien président du groupe Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, au Conseil de l'Europe, envoie un message fort. On va lire un petit extrait de cette lettre dans un instant. Une autre Russie est possible. Faut-il le croire, se demande Libération. Un autre opposant, Alexei Navalny, vient d'avoir 47 ans. Dimanche, il passait son troisième anniversaire consécutif en prison. Le courage de ces hommes, qui refusent de mourir sans alerter le monde sur l'appareil répressif qui les broie, porte l'espoir qu'une autre Russie émergera un jour. Mais quand ? C'est vrai que dans les médias, on nous parle assez peu, finalement, de ces Russes opposants ou autres, qui aspirent à un autre régime politique, à une vraie démocratie un jour en Russie. Lisons un extrait de cette courte phrase, lettre, pardon, là, qu'il adresse à cet ancien député français qui manifestement est devenu un ami. Il lui souhaite même un bon anniversaire à la fin. PS, joyeux anniversaire, je sais que c'était récemment signé Vladimir, 14 avril 2023. Je vous lis un petit extrait de cette courte lettre. Il n'est pas en train de se plaindre, de dénoncer ses conditions d'incarcération, de penser à sa propre personne. Il écrit ça. Malgré l'exclusion de la Russie, du Conseil de l'Europe, il est important pour ceux qui croient au futur démocratique et européen de la Russie que l'Assemblée française, continue de focaliser son attention sur ce qui se passe dans notre pays et de maintenir un dialogue avec cette grande, dit-il, partie de la société russe qui s'oppose à la guerre en Ukraine et au régime autocratique de Vladimir Poutine. C'est particulièrement important en préparation pour le jour où une Russie, dit-il, différente, pacifique, démocratique, libérée de Poutine, puisse reprendre sa place légitime dans la communauté des nations européennes. Vous avez des Russes, notamment ce monsieur, en fait, qui rêvent de ça, qui aspirent à ce que la Russie devienne un jour un pays démocratique, pacifique, libéré de Poutine. Je trouvais ça suffisamment intéressant pour le signaler. Je vous lis un petit peu et puis on enchaîne. Je vous remets le visage de cet homme. Courage, c'était le titre de l'édito de Dove Alphon. Merci Jumpsit ABS pour le troisième mois d'abonnement. Merci The Voyager pour les beats. C'est pas pour demain, dit Crowley. Peut-être, peut-être. On ne sait jamais. Qu'est-ce que vous pensez de cet article ? Allez, je descends dans le chat. Marston écrit, c'est une minorité dont les gens qui aspirent à ce régime démocratique en Russie, qui sont opposés à Poutine. Je pense avoir vu qu'au moins 60% donc de la population russe sans doute veux-tu dire, sont en faveur de Poutine. En fait, quand tu cherches un peu les infos là-dessus, tu te rends compte que c'est très compliqué de savoir ce que pense l'opinion publique russe, parce que il n'est pas super aisé de s'exprimer librement en Russie, notamment sur certains sujets. Il suffit de voir ce que deviennent ceux qui s'opposent publiquement à la guerre en Ukraine. Donc tu imagines bien que si sondage il y a, je pense que les Russes doivent faire très attention à ce qu'ils déclarent dans les sondages. Et donc en fait c'est très très compliqué parce que on n'a pas forcément les instruments fins pour mesurer ce que pense l'opinion publique, quoi. Donc voilà, on écoute les uns et les autres. Tu vas trouver des Russes qui soutiennent Poutine, d'autres pas. Hier j'ai croisé un sondeur français, je lui disais c'est intéressant sur Twitch quand on parle de l'actualité politique et des sondages, il y a une énorme défiance vis-à-vis des sondages, vous en avez conscience? Il me dit oui, c'est vrai. Et donc lui, évidemment, il défend son outil, le sondage, dont on parle souvent ici, et il dit, et moi j'ai un argument que j'évoque de temps en temps parmi d'autres, c'est une des premières choses que les dictatures suppriment dans un pays pour taire la liberté d'expression de chacun, c'est le sondage, les sondages. Voilà. Il prenait l'exemple de son propre institut de sondage, qui est né en 1938, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale en France, et il m'explique qu'une des premières mesures prises par le pouvoir de Pétain, collaborationniste, et c'est de supprimer, enfin c'est de suspendre, d'interdire en fait l'activité de cet institut de sondage. Bon, c'était pas inintéressant. Je fais un petit pas de côté, mais c'était pour répondre à la question sur comment savoir ce que pensent les Russes. C'est mignon parce que Marston qui posait la question dit je bosse pour l'institut de sondage donc je suis assez biaisé aussi. C'est drôle parce que c'est drôle du coup. Rosa, remarque intéressante. Est-ce que tu trouves qu'on est libre d'expression en France, Samuel, avec deux points d'interrogation? Je vois à peu près où tu veux nous emmener. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je ne pense pas que nous sommes dans un régime démocratique parfait en France. Je ne crois pas qu'il y ait de régime démocratique parfait d'ailleurs. En fait, à partir du moment où tu veux voir les choses noires ou blancs, bah, tu vois mal. Si tu dis par exemple le régime russe actuel n'est clairement pas une démocratie parfaite, et que dans le même temps tu dis bon, en France il y a des trucs qui ne vont pas, hein. Regarde le classement de la liberté en France, la liberté de la presse en France dans les classements internationaux, regarde certaines affaires, regarde la question des violences policières par exemple, et tu vas arriver à la conclusion, qui est une bonne conclusion, que notre démocratie n'est pas parfaite. Donc tu auras dit d'un côté que la Russie est loin d'être une démocratie, et puis tu vas dire que la France est loin d'être un régime démocratique parfait, et donc tu vas en conclure finalement que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, que c'est la même chose. Alors qu'en fait, ça, si tu fais blanc et noir, mais si tu mets un peu de gris, et je me permets de dire de subtilité dans l'analyse, tu vas dire, la Russie est tout sauf une démocratie, puisque les libertés individuelles élémentaires sont bafouées, la preuve avec ce monsieur-là. Et en France, il y a des atteintes aux droits de l'homme et à la démocratie qui sont ça et ça et ça, mais qui sont sans commune mesure avec ceux qui existent en Russie. Voilà. Donc tu peux pas mettre les deux pays sur le même plan, et tu peux pas faire blanc et noir. Voilà. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre pays qui pourraient être améliorées, mais ça ne nous met pas sur le même plan au niveau de la pratique démocratique qu'un pays comme la Russie. C'est là où il faut être un peu dans le gris, quoi. Si je puis me permettre. Après, ce n'est que mon avis, hein. Ce n'est pas un fait. Je l'exprime. Merci Sandrine. Quelle teinte de gris? Ah bah ça, c'est à vous de le définir, hein. Hop, une des principales infos en France aujourd'hui, dont nous parlent pas mal les quotidiens ce matin, ils ont bien raison, c'est la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Combien de sujets de société, combien de réformes dans notre pays a provoqué 14 journées de mobilisation avec une aussi forte mobilisation? Quelqu'un qui nous dit, il ne faut pas oublier que la France n'est que 24e au classement de la liberté de la presse, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Je vous disais qu'on n'est pas super parmi les mieux classés. Et puis juste en dessous, il y a Barnac qui vient de répondre, oui, 24e, et la Russie, combien tu dis? Et la Russie, 164e. Voilà, on est dans le gris, c'est ce que je vous disais. Aucune, répond Enfoiros, à la question quelle réforme a provoqué 14 journées de mobilisation comme ça. Moi, je crois personne a priori. Aucune, pardon. Et il y en a une 14e aujourd'hui. Alors, une 14e, pourquoi faire ? La réforme des retraites, qui n'a pas été votée, qui a été adoptée par 49.3, a été... le mot va me revenir dans deux secondes. Promulguée par le chef de l'État. Donc, elle va s'appliquer. Et les décrets d'application sont en train d'être pris. Donc, le truc va s'appliquer, est en train de s'appliquer. Alors, pourquoi ? Pourquoi manifester ? Pourquoi faire grève ? Pourquoi cette 14e journée de mobilisation ? Ah ben c'est la question à laquelle essayent de répondre les journaux ce matin. Retraite, barouf d'honneur, joli titre, hein, un baroud d'honneur mais qui fait du bruit, pour la mobilisation. Et Libé qui écrit, après un mois de pause, les opposants à la réforme seront dans la rue aujourd'hui. Ils le sont peut-être à l'heure où on parle. Pour la 14e fois, avant le débat à l'Assemblée sur la proposition de loi Liotte, toujours déterminée, l'intersyndicale, c'est pourtant que les salariés ne seront pas tous au... Rendez-vous, je vous l'ai dans un instant, je vérifie juste un truc par rapport au colis important que j'attends là pour le stream de vendredi. En ce moment, j'ai une obsession, c'est le stream de vendredi. Je voudrais tellement que ce soit réussi, c'est tellement important que cette première fois soit cool. Voilà, je lis juste les mails rapidement. Ok, je crois que j'ai rien raté. Ah, si, j'ai des nouvelles du colis. Le colis arrivera, si tout va bien, avant 13h. Ok. Super. On va se régaler, vendredi, 20h, sur la chaîne. Il y a quoi ? Il y a ma première... La numéro 1, l'émission test, l'émission bêta, de mon émission sur le gaming, sur le jeu vidéo, folie. Voilà. En espérant que cette émission devienne hebdomadaire à la rentrée prochaine et qu'on ait 34 émissions l'an prochain. Voilà, c'est l'émission pilote. Voilà. Avec Kayane qui va me faire découvrir l'univers de Street Fighter. Lisons l'article de Libé. La semaine débute comme une pièce de théâtre dans laquelle deux personnages monologueraient simultanément sans même se prêter attention. Côté jardin, on est au théâtre donc, hein. Une intersyndicale toujours unie qui appelle les salariés de tout le pays à faire grève et à descendre dans la rue aujourd'hui pour la 14e fois en 5 mois sous un soleil quasi général, et un invariable mot d'ordre, le retrait de la réforme des retraites. Côté court maintenant, un gouvernement qui a choisi ce week-end, le week-end dernier, pour publier au journal officiel les deux premiers décrets d'application de la dite réforme sur une trentaine au total. Donc deux monologues de gens qui ne s'écoutent pas. Après un premier mai massif et une pause d'un mois dans le mouvement social, les organisations de travailleurs voulaient revenir sur le devant de la scène aujourd'hui, ce mardi, dans un calendrier bien réfléchi. La date n'a pas été choisie par hasard. Il y a Bria Eros qui nous dit « Bonsoir ». Alors, ou la soirée a été très très longue, ou tu es en décalage horaire par rapport à nous. En tout cas, bonsoir, bonjour à toi. Donc, une date qui n'a pas été choisie par hasard, puisqu'il s'agit de coïncider avec l'examen par l'Assemblée jeudi de cette fameuse proposition de loi dont on parle tout, issue du groupe Liotte, voilà, qui va tenter d'abroger la réforme. Sauf qu'a priori, ce texte ne va pas du tout être débattu, on va en parler ce matin. Parce que depuis, il explique Libération d'ailleurs, voici l'explication, la situation a changé. Lors de son passage en commission mercredi dernier, le texte Liotte a été dépouillé de son premier article, qui était l'essentiel. Celui qui revenait sur les 64 ans. C'est désormais la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a le pouvoir d'accepter ou de refuser que cet article si important revienne par amendement dans la proposition de loi Liotte. Or, a priori, on sait que Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, va utiliser le fameux article 40, voilà, pour empêcher le retour à 62 ans de revenir dans la proposition de loi. Voilà. C'est dans ce contexte de manœuvre parlementaire, écrit Libération, dans ce contexte, combien de salariés vont aujourd'hui sacrifier une journée ou même quelques heures, voilà, pour manifester, pour faire grève. Voilà. Bon, on verra les chiffres ce soir. Est-ce qu'il y aura une très forte démobilisation sur le front de la lutte contre la réforme des retraites? Eh bien, on le verra ce soir. On verra aussi ce que décide l'intersyndicale. Pendant ce temps, le gouvernement fait comme si de rien n'était. Il continue de dérouler son agenda avec la présentation mercredi demain en Conseil des ministres du projet de loi plein emploi, dont on parlera d'ailleurs demain matin dans la matinale de France Info avec David Delos, notre spécialiste économie. Projet plein emploi, ça c'est hyper important aussi, on va en parler dans les prochains jours, duquel doit naître normalement en 2014 France Travail, qui doit remplacer Pôle emploi, le nouveau service public de l'emploi, un gouvernement qui sait que sa réforme du RSA, sujet très important aussi, qui prévoit, je le rappelle, une nouvelle sanction plus rapide à l'encontre des allocataires considérés comme ne respectant pas leur contrat d'engagement réciproque, alors que des départements expérimentent actuellement un RSA soumis à 15 à 20 heures d'activité. J'ai dit 2014, c'est 2024. C'est moi qui dis du connerie ou c'est une coquille de Libé? Ouais, 2024, bien sûr. Donc, allocataires qui sont en mode test dans des départements, hein, avec des allocataires du RSA soumis à 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. Le gouvernement sait que cette réforme est beaucoup moins impopulaire que celle des retraites. Mais, et la fin de l'article de Libé est très intéressante, c'est là, les syndicats n'ont pas dit non plus leur dernier mot. Désormais, l'intersyndicale, parce que cette unité syndicale, elle est toujours là, ce qui est assez intéressant. Alors que les relations entre les syndicats français ces dernières années, c'était vraiment compliqué. L'intersyndicale se verrait bien exister par-delà la crise des retraites pour peser lourd dans les futures discussions avec le gouvernement, avec le patronat, notamment sur toutes ces questions du travail et du RSA. La semaine dernière, l'intersyndicale a présenté de premières pistes de propositions communes sur les salaires et les conditions de travail. Situation inimaginable il y a encore 6 mois, quand le refus des 64 ans était le principal ciment de son unité, et qui lui permettra peut-être de poursuivre sous une autre forme ce mouvement social et historique. Que nous dit Libération? Que nous dit Libération? Ben oui, que c'est à peu près plié quand même, hein, la réforme des retraites, franchement. Voilà. Il n'est pas impossible que les syndicats le sachent d'ailleurs, mais que cette unité syndicale qui persiste, qui demeure, va peut-être permettre aux syndicats de peser sur d'autres textes, d'autres réformes, notamment la réforme du travail en France. Donc voilà, voilà. Et la mobilisation aujourd'hui, eh ben, elle va être un signe intéressant aussi de voir à quel point les Français et les Françaises sont derrière les syndicats dans ce front opposé aux réformes de l'actuel exécutif. Je vous lis, et on enchaîne avec l'Humanité qui se penche également sur cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je remonte. Et puis il y a un truc que j'évoque pas là, qui est aussi le coup politique de la fin de cette histoire. Si effectivement, comme on le pense, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, utilise jeudi l'article 40 de la Constitution pour empêcher la proposition de loi Liot d'être débattue pour revenir au moins symboliquement sur la réforme des retraites, le coup politique en termes d'image pour le gouvernement va être très très lourd, quoi. C'est-à-dire que, à nouveau, les opposants à cette réforme, les syndicats, les partis d'opposition vont crier au déni de démocratie en rappelant qu'à aucun moment il n'y aurait eu de vote sur cette réforme des retraites. Pas de vote à l'Assemblée, 49-3, pas de vote sur une proposition de loi inverse, puisque article 40, et pas de vote non plus, malgré ce que dit le gouvernement, en disant « Ah, mais il y a eu des motions de censure déposées par l'opposition, donc si, on peut dire qu'il y a eu un vote quand même, parce que si il y avait une majorité à l'Assemblée contre cette réforme, bien, la motion de censure aurait été votée. » Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, sans prendre le parti de l'opposition, puisque une motion de censure, c'est une motion de censure. Hein, c'est un vote contre le gouvernement. Et il faut... Ah, c'est peut-être mes... Attendez, c'est très important, c'est pour mon... J'arrive.
Oui. Ah ouais, c'est au troisième. Merci beaucoup.
J'arrive, c'est super important. J'arrive. Unboxing. Je vous montre pas tout, hein. Je vous montre juste l'idée, quoi. Bougez pas. Bon, parce que je veux pas tout vous montrer, hein. Faut qu'il y ait des surprises quand même, faut qu'il y ait des surprises, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Alors. C'est où ma souris? Elle est là. Vous pensez que c'est quoi? Oh, ça pue partout. Là. Voilà. Vous pensez que c'est quoi? Une manette. Un stick arcade. Un God serre-tête. C'est quoi, au beau loco, un God serre-tête? C'est très bizarre. Un God serre-tête. Je vois pas le... Comment tu... vous, à votre avis, c'est quoi? Vous êtes plusieurs à penser que c'est pas le bon colis, qu'en fait, ce sont des jouets d'adultes. Bravo, bravo. Heureusement qu'on n'est pas mercredi, jour des enfants. Qu'on est entre nous, parce que c'est vraiment... vous êtes quand même des grands malades. Hein. Des grands malades, je dis moi. Ouais. Un nouveau casque Apple, parce que riche. Non, c'est pas un casque Apple. Je vais pas mettre $3,500 dans un casque de verre. Un sticker de Fabien Roussel. Un déguisement de licorne. Un paquet de 2500 viewers. Non, ça, c'est vous, ça. Bon, voilà. Non, en fait, c'est des petits trucs. C'est des petits trucs dans cet univers-là. Voilà. Regardez. Voilà, c'est des petits goodies. Voilà, je sais pas si ça vous parle un petit peu, là. Voilà. Ouais. Genre comme ça, quoi. Voilà. Tadam ! Des petites choses dans cet univers-là. Non, ça n'est pas une poupée gonflable de Brad Pitt, Seb. Voilà. Tadam ! Bon, des petites choses, voilà. Il y a des petites choses, des petits goodies. Voilà, un petit déco pour l'émission de vendredi, puisque première émission sur le gaming, vendredi prochain, 20h sur cette chaîne, avec Kayane. Pour commencer, puisqu'en gros, l'idée, c'est de découvrir en première saison l'année prochaine, mais avec deux petites émissions test là en juin, ce vendredi et celui d'après, l'univers du jeu vidéo, avec un nouveau jeu vidéo à chaque fois. Donc là, on part sur une première saison à 36 jeux vidéo découverts par Papy Sam. Et ça va être une dinguerie. Kiki de Jungle, c'était pas en septembre? Si. Ça commence en septembre, si tout va bien, si je trouve le partenaire, le sponsor. Mais on fait deux émissions test, vendredi et le vendredi d'après. Voilà. Tu vas présenter une émission où tu vas jouer, ou les deux. En fait, le pitch est super simple. Samuel Etienne, c'est moi, 52 ans, a joué pour la dernière fois au jeu vidéo en 1988, 35 ans après, convaincu qu'aujourd'hui, pour comprendre le monde dans lequel on vit, eh bien, il faut connaître le gaming au vu de l'effervescence de ce secteur, la richesse artistique, sans compter son importance économique. Donc il faut connaître, explorer cet univers. Eh bien, Samuel, donc papy là, invite tous les vendredis, là pour l'instant c'est vendredi, mais après ça va changer, puisque à la rentrée il y aura l'hebdo Etienne, donc on trouvera un autre jour. Une fois par semaine, Samuel reçoit un gamer ou une gameuse qui vient me parler et vient jouer avec moi de son jeu vidéo préféré. On parle de jeux vidéo, on joue avec le jeu, on parle de son rapport au jeu, on parle de son histoire, on parle de, voilà, on discute, on joue, voilà, et on va découvrir plein de jeux. Ça va être une dinguerie. Voilà. Ça, rendez-vous vendredi pour la première. Bon, je reviens à ma réforme des retraites, pardon, pour ce petit aparté. Donc l'humanité ne pense pas du tout que c'est terminé, comme on le disait tout à l'heure, et que c'est un baroud d'honneur, ou un barouf d'honneur, comme le disent certains, et donne la parole à Sophie Binet, qui est la nouvelle secrétaire générale de la CGT, et qui dit non, cette réforme ne doit pas s'appliquer. Merci Better to Read Books pour le prime, merci Don Noir pour le 13e mois d'abonnement. Voilà. Donc on a une interview de Sophie Binet, la patronne de la CGT, et on a un édito qui résume un peu la position de l'humanité sur où on en est aujourd'hui de la lutte contre cette réforme des retraites. Les traces du temps long. Vous voyez, on dit que l'humain pense qu'il est encore possible de gagner cette bataille, cette guerre, et en même temps, les traces du temps long, on voit qu'on est déjà en train de s'installer dans quelque chose de plus lointain. Finalement, on n'est pas très loin de l'analyse de Libération. Lisons. 6 mois après le début de la contestation contre la réforme, le cœur social bat toujours. Et la 14e journée de mobilisation, ce mardi, à l'appel de l'intersyndicale, risque de surprendre jusque sous les lambris du palais. L'humanité rêve très 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 fort que la mobilisation surprenne le pouvoir aujourd'hui, peut-être, on va voir. Plus de 250 cortèges vont s'élancer dans tout le pays. Après, combien de personnes dans les cortèges, c'est bien la question. Au début de l'hiver, qui aurait imaginé un tel scénario? Depuis le 1er mai, beaucoup s'interrogent sur la continuité et la pérennité du mouvement, alors que l'écrasante majorité des Français reste opposée aux 64 ans. Dans nos colonnes, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, ne cache pas l'enjeu. Nous ne voulons pas tourner cette page, assure-t-elle, avant d'ajouter, les suites dépendent de la mobilisation de mardi. Les menaces de coup de force d'une violence inédite, selon Sophie Binet, pèse d'ailleurs de nouveau ce 8 juin à l'Assemblée, je vous en parlais tout à l'heure, avec la possibilité d'empêcher un vote sur la proposition de loi du groupe Liot vidée de sa substance en commission. Je vous ai expliqué déjà tout ça tout à l'heure. Nous connaissons le 49.3, nous sommes familiarisés désormais avec le 47.1, et voici le désormais célèbre article 40, où comment fouler aux pieds de manière infernale et jusqu'au boutiste, écrit l'humanité, tous les droits les plus fondamentaux de notre représentation nationale. La conclusion est intéressante de ce papier. Bien qu'il n'en tienne aucun compte, le chef de l'État C'est pertinemment qu'il a définitivement perdu la bataille des consciences comme celle de l'opinion, provoquant par son arrogance, sa déconnexion du monde réel, son mépris du peuple, la plus grave crise politique et sociale de notre République au XXIe siècle. Elle laissera des empreintes durables, assez insoupçonnables sans doute, car l'avenir de nos retraites a fonctionné en point d'accroche, révélant une colère profonde et légitime, déjà les traces du temps long en quelque sorte. Finalement, l'humanité est un peu sur la même ligne que Libération, à savoir que il n'est pas sûr que cette bataille de la réforme des retraites soit gagnée par ceux qui s'y opposent. En revanche, cette bataille va laisser des traces. Il va peut-être permettre, on parlait de l'intersyndicale tout à l'heure, une mobilisation très forte contre certaines des prochaines réformes de l'exécutif. Cyril, que j'adore, pas du tout. Cyril répond à une question. Si Velzev écrit « L'humanité est située où sur l'échelle politique ?» Quelqu'un répondait tout à l'heure « À gauche, très à gauche. » Oui, à gauche de Libération. Et Cyril, que j'aime beaucoup, dit « C'est l'organe du PC. » Non, ce le fut. L'humanité, le journal fondé par Jean Jaurès, donc c'est pas caché, hein, l'humanité a longtemps été très proche, compagnon de route, hein, du Parti communiste français, du PCF. Voilà. Mais au fil du temps, l'humanité, tout en partageant les valeurs, les idées communistes, hein, a pris ses distances avec le parti. Donc on peut toujours parler de l'UMA comme d'un journal communiste, il le revendique totalement d'ailleurs. Hein. En revanche, vous ne pouvez pas dire que l'humanité est, ce qu'il a été dans le passé, l'organe du PC. Voilà. C'est un journal indépendant du Parti communiste français, voilà, qui décide de ses sujets, de la façon dont ses articles sont écrits. En revanche, il partage les valeurs du PC, ça, oui, c'est pas la même chose, bien sûr. Nuage solitaire, si tu vas sur mon... Sur, ah, tu n'as pas Twitter. Bah, envoie-moi un DM par Twitch, alors. Je te lirai. On parle de la grève à Disney un petit peu ? Vous en pensez quoi ? Je vous lis un petit peu et on parle de la... Bien sûr. Il y a Lou Ardent qui dit « Bonjour, est-ce qu'on peut faire un 49.3 pour supprimer une loi déjà passée par 49.3 ?» Oui, sauf qu'en fait, le 49.3, c'est le gouvernement qui a la maîtrise du 49.3. Le gouvernement, évidemment, ne va pas faire un 49.3 pour annuler une loi qu'il a passée par 49.3. Si demain, il y a de nouvelles élections et que il y a un nouveau pouvoir, ce nouveau pouvoir peut bien sûr utiliser, imaginons que, je sais pas moi, la gauche, la NUP arrive au pouvoir, un 49.3 pour supprimer cette loi adoptée par 49.3. Après, je prends l'exemple de la gauche. Si demain la gauche utilise un 49.3 sans vote à l'Assemblée parce qu'elle est arrivée au pouvoir pour annuler la réforme des retraites, alors même qu'elle a dénoncé l'utilisation du 49.3 par Macron sur la réforme des retraites, évidemment, on va un peu rire, on va un peu se moquer. Donc, comment dire ? Si demain la gauche arrive au pouvoir et veut revenir sur la réforme des retraites, je pense qu'ils vont s'appliquer à avoir un vote et une majorité à l'Assemblée. Encore faut-il qu'ils aient cette majorité, c'est toute la difficulté de la séquence que nous vivons, et ne pas passer par un 49.3, même si la gauche, dans le passé, a parfois beaucoup utilisé le 49.3. Je crois que c'est Rocard, notamment, qui l'a beaucoup utilisé. Je remercie Chouilly pour le 3e mois d'abonnement, et Sti88, c'est quand même beaucoup, pour le 16e mois d'abonnement. Et Xineco, je ne t'avais pas vu, le petit dragon, merci beaucoup pour le 21e mois. Ah bien sûr, Alexandra, la rentrée prochaine, je poursuis la revue de presse, je poursuis l'hebdo Étienne, je poursuis toutes ces émissions. Ce que j'annonce, là, je le fais en plus. On parle de la grève à Disney. Oui, Valls aussi, le gouvernement Valls aussi a pas mal utilisé le 49.3. Nico, tu as raison. Plusieurs jours que certains me demandent de parler de ce conflit social, mais j'ai trouvé un article qui nous en parle assez bien. Au Royaume de Mickey, donc on est à Disneyland Paris, les salariés mobilisés, il y a un conflit actuellement, il y a un mouvement social en cours à Disney. Après trois premières journées de grève réussies, des employés du parc d'attractions Disneyland Paris débraillent à nouveau aujourd'hui. Quelqu'un me demande, mais qu'est-ce qui se passe à Disney ? Ben, tu vas voir. Ils attendent de meilleures rémunérations, mais aussi l'abandon d'une organisation du temps de travail qui est jugée délétère. Il n'y a pas que la question des salaires. Ce n'était sans doute pas ce qu'enfants et parents étaient venus observer dans le parc d'attractions de Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. samedi dernier, du balcon du château de la Belle au Bois Dormant qui domine le parc, point de princesse surgissant aux yeux des visiteurs, mais des grévistes agitant avec vigueur des drapeaux syndicaux. C'est vrai que c'est un petit changement d'ambiance quand même. Réunis au sein d'un nouveau collectif appelé Mouvement Anti-Inflation, des salariés ont, ça c'est intéressant, spontanément décidé de se mettre en grève le 23 mai. Donc ce n'était pas une initiative syndicale, ce sont des salariés qui ont décidé de se mettre spontanément en grève. Il y a Polichot qui dit c'est la nouvelle parade de Disney, elle est bonne, elle est pas mal, avant d'être rejoint par les syndicats. Voilà, UNSA et CGT en tête. Mais c'est venu des salariés. Après trois premières journées de mobilisation réussies, estime l'UMA, les grévistes espèrent désormais reconduire leur mouvement chaque semaine. Ce mardi marque la quatrième journée de lutte au royaume de Disney. En tout, selon les syndicats, plus d'un millier de salariés de tous bords, quand même. Hein. Quelqu'un me dit, c'est quoi une grève réussie? Ben, effectivement, s'il y avait plus d'un millier de salariés de Disney en grève samedi, c'est beaucoup. Hein. Et on prit part à une déambulation dans le parc, donc effectivement, ça avait un côté un petit peu parade, alors que celui-ci était ouvert aux visiteurs. Il y a quelqu'un qui était, il y a de sa maman qui était, j'y étais samedi. Au parc, c'était assez impressionnant. Vigile qui hurlait de se mettre à couvert dans les boutiques. Les grévistes n'allaient pas taper sur les visiteurs. Mais globalement, très pacifique, je n'ai pas vu ni entendu de débordement quelconque. Les vigiles qui hurlaient de se mettre à couvert dans les boutiques, ils n'ont jamais vu un manifestant, quoi. C'est, je pense qu'une manif à Disney, c'est assez cool quand même, en vrai, quoi. Poursuivons, c'est pas terminé. Pourquoi ce conflit? À l'heure où les prix peinent à dégonfler, c'est l'inflation, et où le pouvoir d'achat s'inscrit en tête des préoccupations des Français, ce sont bien de meilleurs salaires que les employés de Disney veulent arracher, mais les revendications des grévistes portent également sur un autre volet, celui des conditions de travail. Depuis 2020, il y a une disposition appelée horaire choisi, ce qui est un petit peu ironique, qui instaure l'annualisation des 35 heures de travail hebdomadaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de travailler 7 heures par jour sur 5 jours, les salariés peuvent ainsi être amenés, sans manifestement qu'ils aient trop le choix, à travailler seulement 4h15 certaines journées et jusqu'à 9h15 d'autres. Avec environ 17 000 salariés, Disneyland est le plus important mono-employeur privé d'Île-de-France. Le conflit social n'a ainsi pas manqué d'alerter les élus de la Seine-et-Marne, la gauche républicaine et socialiste, le Parti radical de gauche, le Parti socialiste, Génération et Place publique ont interpellé la direction du parc dans un communiqué commun, ce communiqué disant « Il est essentiel que cette entreprise qui bénéficie depuis sa création d'un fort accompagnement et soutien des pouvoirs publics montre qu'elle assume également en matière sociale l'exemplarité qu'elle prétend avoir en matière économique et sociétale. » Voilà pour ce mouvement. Bon, parfois, j'attends un ou deux jours avant de trouver le bon article pour parler d'une actualité. C'est vrai que cet article de l'UMA est pas mal. Cannibal Lecteur, merci beaucoup pour ce 19e mois d'abonnement. J'avais pas vu. Merci beaucoup. Merci Sandra pour ce message. Et merci à ton mari aussi. Yamir qui nous dit si ça pouvait fermer aussi, ce ne serait pas une perte. Bah si, pour les, comme le dit Sèvres, pour les 17 000 salariés, ce serait une perte, je pense, déjà. Moi, par exemple, j'avoue que je ne suis pas un fan de ce genre de parc. J'aime pas trop le bruit, la musique un peu à fond tout le temps. La bouffe qui est pas super bonne, qui est super chère. Bon. Après, si on y va, on y va pour les enfants, bien sûr. Donc, en vrai, on s'en fout que j'aime ou pas. Mais moi, je suis pas un fan. Mais après, il y a des gens qui adorent. Et en vrai, c'est très subjectif. Moi, ça me choque pas. Hein, moi, j'aime pas trop, voire pas du tout. Mais ça me choque pas qu'on puisse kiffer Disney, quoi. Hein, laisser les gens faire ce qu'ils veulent un petit peu, quoi. Donc, je ne vais pas appeler à ce que ça ferme, quoi. 18 euros la gaufre, dit Glet. Je sais pas si c'est 18 euros, mais c'est trop cher la bouffe là-bas. Je ne comprends pas. Je peux râler un peu. Je ne comprends pas que dans un Disney à Paris, en France, enfin aux portes de Paris en France, on est quand même un pays qui aime bien manger, quoi. où il y a moyen de trouver des gens qui font correctement à manger. Je ne comprends pas qu'un parc qui existe depuis aussi longtemps propose des trucs aussi pardon hein, mais c'est vraiment pas terrible quoi. Alors le rapport qui a été pris il est surréaliste, mais au moins que ce soit bon quoi. Et c'est quand même c'est pas top quoi. Il y a Argos qui me dit que Jiraya adore par exemple. Ouais, Jiraya il adore. Voilà, Marie Palot elle adore. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'elle est allée récemment, il y avait la grève. Voilà. Mais moi je kiffe pas, mais en vrai chacun fait ce qu'il veut quoi. Chacun fait ce qui lui plaît, etc. C'est parce qu'ils savent que on ira quand même manger dit à Okayas. Bah oui, mais bon, quand même. Je sais pas, ils peuvent l'améliorer un peu quoi. Ça leur coûtera pas beaucoup plus cher, je pense en fait. Voilà. Bon, je suis pas le seul à trouver que la bouffe de Disney est quand même pas top. Est-ce que c'est vraiment la première grève dans l'e-sport? En tout cas, l'humanité nous dit que aux États-Unis, à moins que dans le chat vous ayez d'autres informations, est en train de se passer la première grève dans l'e-sport aux États-Unis. Face à un plan de licenciement, les joueurs professionnels de la scène américaine de League of Legends ont refusé de reprendre le championnat. Bon, grève aux États-Unis déjà, c'est intéressant. Hein, il n'y aura pas des caisses non plus. Mais dans l'e-sport, alors ça manifestement ce serait une première. C'est dans l'humain et c'est page 11 pour ceux que ça intéresse à cet article. Ça sait toujours pas écrire e-sport correctement, dit King Julien. Ouais, je sais, ouais, j'ai vu le S là. Mais bon, c'est pas grave, on voit l'article intéressant. Du jour au lendemain, plusieurs dizaines de joueurs professionnels de League of Legends ont été mis à la porte, parfois littéralement mis à la porte, vous allez voir, puisque certaines équipes hébergent leurs athlètes dans de grandes maisons où ils vivent, où ils s'entraînent, et donc du coup il y a des joueurs de LoL aux États-Unis qui ont été mis à la porte. La Moulaga, j'espère que tu vas bien. La raison, Riot Games, l'éditeur du jeu et propriétaire du géant chinois Tencent a levé l'obligation faite aux grosses équipes américaines d'entretenir une écurie de deuxième division en plus de leur principale structure. Voilà. Résultat, mi-mai, 7 organisations sur 10 ont viré leurs 5 membres, leurs éventuels remplaçants, mais aussi les entraîneurs, les préparateurs. Donc ça a mis quand même pas mal de gens dehors. Face à cette hécatombe, la LCSPA, l'association de joueurs professionnels aux États-Unis, a appelé à cesser le travail et menacé de se transformer en syndicat. Le championnat qui devait reprendre le week-end dernier n'a pas repris et est décalé d'au moins 15 jours. C'est bien l'éditeur, mais ça vous le savez, et non les patrons des équipes qui est mis en cause par les joueurs licenciés et menacés. Riot, donc, qui donne à chaque structure une enveloppe de 3 millions de dollars par an. Si les revenus de certaines stars de première division avoisinent le million de dollars, les plus mal payés de leur équipe de deuxième ligne sont au salaire minimum proche de 1000 dollars par mois. C'est aussi Riot qui fixe les règles. Pour concourir et toucher l'enveloppe, il fallait jusqu'ici maintenir cette donc académie un peu de deuxième division propre à faire émerger les talents venus de la scène amateur. Voilà. Mais manifestement, Riot a décidé de faire des économies. La solidarité a payé. La majorité des joueurs de première division qui n'étaient pas concernés, hein, qui n'étaient pas touchés, ont refusé de reprendre le travail. Riot a dû revenir à la table des négociations. La LSCPA y porte plusieurs revendications, comme la garantie d'un minimum de sécurité contractuelle pour les compétiteurs entre les saisons, et que Riot porte son aide à la deuxième division à 300 000 dollars par joueur. Conclusion de l'article de Pierrick Marissal. L'événement illustre clairement le fait qu'en l'absence de toute fédération, comme dans le sport traditionnel, l'éditeur du jeu, hein, propriétaire du jeu sur lequel s'affrontent les joueurs, est le maître tout puissant. Voilà, pour peser dans le rapport de force, la LCSPA réfléchit à s'étendre à d'autres jeux, voilà, et à s'internationaliser. Voilà. Pour ça, récemment, j'ai reçu des gamers, des streamers dans les deux Etienne qui m'ont parlé de ça. D'abord du statut très précaire des joueurs d'e-sport, hein, voilà, en France, mais manifestement aussi aux États-Unis, voilà, et le fait qu'il n'y avait pas de protection, d'organisation syndicale. Et on voit qu'il y a un début de réflexion, notamment aux États-Unis, sur une organisation des joueurs, des joueuses via leur syndicat pour peser face aux éditeurs de jeux qui pour l'instant sont tout puissants. C'est intéressant, hein? Et ça peut aller très loin, puisque comme le sait WCNO, parce que Luma en parle aussi, mais je ne vous l'ai pas mis de côté, si la CAF ne s'arrête pas là, ils vont annuler le split et leur participation à la Coupe du Monde, c'est-à-dire que les Américains ne pourraient ne pas participer à la Coupe du Monde de LoL. Comme le dit Samuel Vimer, c'est quand même bien qu'il y ait une solidarité des meilleurs joueurs dans cette sphère qui est pourtant très compétitive. Faire un petit coca, moi. Laissez-moi vérifier un truc. L'humain a peut-être fait une petite coquille sur un truc. Sur les liens entre Riot et... Ah oui, c'est l'inverse. Ouais, une petite coquille s'est glissée dans l'article, vous l'avez corrigé. L'humain a écrit que Riot Games... Non, c'est ça. C'est moi qui l'ai mal lu, je pense. Riot Games est la propriété du géant chinois Tencent. Voilà. Et je pense que j'ai dû lire l'inverse. Voilà. Mais c'est bien Tencent qui est le propriétaire et Riot Games qui est la filiale. Voilà. Et je pense que c'est pas l'humain qui se trompe, c'est moi qui l'ai mal lu. C'est ma faute. Mea culpa. Mea maxima culpa. Et merci de votre vigilance. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est rien. C'est mon PC qui dit que je suis... C'est pas... C'est rien. C'est mon PC qui dit que je suis obsolète. Donc, ce ne sera pas la première fois. 1h33. Pff, je le savais. Je suis réglé comme une montre suisse. C'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'il disait le... Il dit pognon, thune, suisse, montre suisse. C'est quoi la phrase? Vous l'avez. Rappelez-moi, il a. Ça va revenir dans le chat dans un instant. Je possède des thunes, exactement. Je suis riche, je possède des thunes. Voilà. Je suis à l'aise financièrement. Ah, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Pourquoi je vous disais ça? Ah oui, je suis réglé comme une montre suisse. À un moment, j'ai un petit coup de mou. Voilà. Donc, je parle de vigilance intellectuelle. Et je sens qu'en fait, j'ai besoin d'un shoot de caféine, puisque je suis drogué, je l'assume, à la caféine. Et en général, ça se passe au bout d'1h30 de stream, 1h34, bim, voilà. J'ai besoin de mon petit shoot de caféine. Donc on va chercher ça. Faites une petite pause aussi, pause hydratation, pause pipi. Et on parle de la réforme des retraites, de la crise du logement en France, d'un joli portrait d'Ibrahimovic, vraiment sympa. Un article dans le Figaro sur Kick qui essaie de concurrencer Twitch, et puis évidemment un article sur le fameux casque d'Apple Vision Pro là, voilà, qui défraie la chronique. Voilà. C'est le sucre, Samuel, pas le café, me dit Monsieur Malone. C'est le café, hein, je peux te dire que là mon cerveau est en train de s'éteindre, et si je ne prends pas un café là maintenant tout de suite, je peux vous dire que je vais m'écrouler sur mon clavier. N'oubliez pas que Papy Sam s'est réveillé à 2h, qu'il y avait la matinale de France Info ce matin. Coca ou café? Peut-être un coca. Peut-être un coca. Ok, je vous mets 3 minutes de musique pour les abonnés, un petit peu de pub pour ceux qui ne sont pas, et on se retrouve dans 3 minutes max pour lire tout ça. Il y a de beaux articles, vous allez voir. A tout de suite. C'est bien ça ou pas? Ah ouais. C'est pas que c'est bien, c'est que ça a l'air très bien. À tout de suite. 3 minutes. Ciao, ciao. Trop bien, tout de suite.
catching up on Monday's news. With every sip out of your mug, I knew. The time is running out and crowding the room. Oh, my bad for you, my bad for you.
Ok, c'est l'annonce locale pour le petit raid de fin de stream de tout à l'heure. Alors, on reprend la revue de presse et on revient, c'est important, à cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec un papier et la une de La Croix. Ici, je remercie Captain Flemme, French Hugo pour les bits et French Hugo pour l'abonnement offert à Arnaud. Mais non, t'arrives pas à la fin, on est à peine à la moitié. Merci à Padelou pour cet abonnement que tu viens de prendre. La réforme, malgré tout, oui, quelle que soit la mobilisation aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe jeudi 8 juin à l'Assemblée, peu de chance que cette réforme des retraites soit annulée, d'où ce titre de La Croix. La réforme, malgré tout, alors que les syndicats appellent à une journée de grève salariés et caisses de retraite, ils se préparent déjà à l'entrée en vigueur de la réforme qui entre en vigueur, si je ne dis pas de bêtises, en septembre prochain, à la rentrée. Multivers. Pourquoi Jérôme Chapuis a-t-il baptisé son éditorial sur cette réforme des retraites multivers? Le scénario de la réforme des retraites tient désormais du multivers, c'est un petit peu étrange. La dernière martingale des brillants esprits de Hollywood, un film dans lequel les acteurs évoluent au sein de réalités parallèles et déconnectées entre elles, dans l'univers des syndicats. L'exécutif peut encore plier, il suffit de rester mobilisé, de descendre en nombre dans la rue, sur l'air de « on ne lâche rien », comme en ce mardi 6 juin. Ça, c'est l'univers des syndicats. Dans l'univers des députés de l'opposition, il est possible de voyager dans le passé et à la faveur d'une niche parlementaire, d'abroger un texte à peine adopté, improbable coup de théâtre de jeudi, que certains envisagent pourtant. Ça, c'est l'univers de l'opposition à l'Assemblée. Dans l'univers du gouvernement maintenant, tout se passe comme si rien n'était arrivé. La page est tournée, les premiers décrets sont publiés, la réforme s'appliquera au plus tard cet automne. Chacun donc reste persuadé d'avoir raison. Vous avez l'univers des syndicats, l'univers de l'opposition, l'univers du gouvernement. Tous d'ailleurs, souligne La Croix, ont une part de légitimité. C'est bien le problème de cet interminable feuilleton, ces trois légitimités, celle de la rue, celle du Parlement, celle du gouvernement, qui sont toutes les trois légitimes, ne se sont jamais vraiment rencontrés. Les différents acteurs n'ont jamais poussé la discussion jusqu'au bout. Ils n'ont jamais envisagé la moindre concession. Les torts, bien sûr, sont partagés, mais le résultat est là, une histoire sans fin et un spectacle, il faut bien le dire, dit La Croix, assez lassant, où chacun s'enferme dans son rôle, qu'il joue dans son coin, sur sa petite scène, à destination de son public. Laquelle, du mauvais théâtre, estime La Croix, et aussi de la piètre politique, laquelle, quand elle est mieux menée, consiste... Alors, petite pause, La Croix dénonce le fait, selon La Croix, que Cornell n'est pas du tout d'accord avec ça, que les torts sont partagés, que le gouvernement, l'opposition et les syndicats ont des torts partagés, parce que finalement, si chacun avait voulu vraiment discuter et faire des concessions de part et d'autre, on serait arrivé à une réforme de retraite, sinon acceptée par tous, en tout cas acceptée par le plus grand nombre. C'est l'analyse de La Croix, je ne sais pas ce que ça vaut. Bon. Donc, de la mauvaise politique. Qu'est-ce que c'est la bonne politique selon La Croix? Allons-y. La bonne politique, consiste précisément à faire coïncider des visions et des intérêts divergents par le partage des diagnostics, la médiation du vote, par la négociation. Cela requiert hauteur de vue, cela requiert imagination, qualité dont tous les protagonistes ont manqué dans cette affaire. Je vois ce que veut dire La Croix. Est-ce que cette réforme des retraites est la conséquence d'un échec partagé. Voilà. Les syndicats ne vont pas être d'accord. Les syndicats ont négocié avec le gouvernement pendant plusieurs mois là-dessus. Et puis de ces négociations n'est rien sorti en fait. C'est-à-dire que le gouvernement est resté un peu sur ses positions, quoi. Après, le gouvernement va dire « Ah, mais on a fait des concessions ». C'est pas 65 ans, c'est 64 ans. Il y a eu des concessions sur les femmes, sur la pénibilité. Et dans la rue, on va dire, c'est faux. En face, il y a eu zéro concession, 49-3, une brutalité dans l'exécution de cette réforme. French Guillaume voit une manif en cours à côté de son travail en ce moment même, beaucoup plus dispersé que les fois précédentes, moins de monde a priori de visu. On fera le point ce soir. Bon, voilà pour le regard de la croix là-dessus, quand même. La crise de l'immobilier, enfin la crise du logement surtout. C'est un sujet que les Échos suivent de près. Alors, je vous la résume parce que c'est un truc qu'on suit sur France Info depuis le début de la semaine. Là. Hier après-midi, aux alentours de 17h-17h30, c'était des annonces extrêmement attendues, celles du gouvernement. En l'espèce, c'est la première ministre Elisabeth Borne qui a fait ces annonces sur la crise du logement. La crise du logement en France, c'est simple, il n'y a pas assez de logements. Du coup, tout est cher à la loc, à l'achat. Et c'est de plus en plus cher et c'est de plus en plus compliqué. Et le logement compte pour une part de plus en plus importante dans les revenus globaux des ménages. Et ça fait des mois que les professionnels du secteur du logement, de l'immobilier, tirent la sonnette d'alarme et que l'exécutif, selon ces acteurs de l'immobilier, reste sourd. L'exécutif qui a fait des annonces hier, je vous résume la réaction de ces professionnels de l'immobilier ou de la construction. Nul. Voilà. Vous êtes plusieurs à me parler d'une vidéo de Stupid Economics là-dessus qui est bien foutue. Plan logement, les raisons d'un changement de cap. Pourquoi le plan du gouvernement n'a pas été aussi ambitieux que certains l'attendaient? Ben c'est ici. Bercy espère économiser 2 milliards d'euros par an à terme en ne reconduisant pas certains dispositifs comme le Périssol, je crois, qui était un dispositif qui permettait de réduire en déduction des impôts quand on achetait un logement pour le louer, par exemple. Voilà. Donc, voilà pourquoi le gouvernement, finalement, aurait été moins ambitieux dans ses propositions, tout simplement parce que les caisses sont vides. Oui, c'est Pinel. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit Périssol. C'est le dispositif Pinel. Merci. Je savais bien que c'était une connerie. C'est le Pinel. Périssol, c'était autre chose. C'était avant, non ? Ah, ouais, Hovmanu, c'est une donnée de l'équation. Hovmanu dit, c'est surprenant, j'aurais dit qu'il y avait largement assez de logements, juste énormément de résidences secondaires et Airbnb. C'est une donnée de l'équation. Effectivement, il y a des logements qui échappent justement au logement et qui sont des résidences secondaires ou qui sont des Airbnb, ce qui aggrave le phénomène. Mais je pense que même si on intégrait ces logements-là, je pense qu'il en manquerait encore pas mal, quoi. Casquette verte, je flippe, voilà, on est dans le quotidien des Français. J'aimerais une troisième pièce pour agrandir la famille. Je pense que ça ne va pas passer au niveau du budget. Il va falloir partir plus loin. Voilà, là c'est ça. Élise Zéphir, je suis architecte. Le coût des matériaux, c'est n'importe quoi. Les fournisseurs s'en mettent plein les poches et c'est les petites entreprises qui trinquent. Et les clients aussi. Trop de Airbnb, de résidences secondaires, c'est également ce que dit Jaco dans le chat. ...9,5% de logements secondaires, c'est énorme quand même, dit Grand Lolo. Voilà. Une des données de l'équation aussi, mais pour le coup on n'a pas la main en France, hein, comme le dit Utopie, c'est la montée des taux d'intérêt. Voilà. C'est intéressant parce que Utopie dit... Alors c'est très intéressant parce que Utopie dit, quand on monte les taux d'intérêt, justement, du coup, ça renchérit le coût du crédit. Aujourd'hui, il y a des ménages qui ne peuvent plus acheter, ou en tout cas plus acheter aussi grand. Et Utopie écrit, quand on monte les taux d'intérêt, les prix du logement baissent. Et ben c'est exactement l'espoir des Échos. Dans cet édito, qui a une vision un peu optimiste de cette crise, bon, je vais vous lire cette vision optimiste et vous allez me dire si vous la partagez. Immobilier. Vive la crise. Alors là, c'est un peu à rebours de tout ce qu'on se dit là. Vive la crise, vive la crise. Il y a des crises qui n'ont que des effets négatifs et puis il y a celles qui peuvent aussi avoir des retombées positives. Dans un contexte inflationniste qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat, la France pourrait ainsi ne pas voir que le verre à moitié vide de cette crise du logement. Il y aurait un verre à moitié plein de cette crise du logement. Voyons. Certes, le recul de la construction va peser sur l'offre, hein, il y aura moins de biens. La fin de bien des chantiers va impacter un secteur économique qui emploie des centaines de milliers de personnes parce qu'il y a aussi un enjeu sur l'emploi. La hausse des taux d'intérêt va empêcher les Français d'acquérir un bien qu'ils convoitaient, c'est ce que je vous disais à l'instant. À court comme à moyen terme, la crise s'annonce violente et n'a rien de réjouissant. Mais à long terme, alors là, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. À long terme, cette crise du logement pourrait avoir quelques vertus, la première étant de contribuer à une indispensable baisse des prix. Lisons. Les promoteurs diront que la baisse ne pourra être que progressive et prendra des années. Ils ajouteront que la hausse des normes environnementales et autres explosions des coûts de construction empêcheront que cette baisse soit massive. Peut-être, mais la vérité est qu'une vraie baisse des prix dans l'immobilier serait une bonne nouvelle. Elle impacterait bien sûr négativement le patrimoine de la grosse moitié des Français qui sont propriétaires. Mais réduire une plus-value potentielle n'est qu'un moindre mal si dans le même temps l'autre petite moitié des Français qui sont locataires arrivait enfin à s'offrir un logement dont le prix d'achat aurait baissé de façon significative. L'habitant étant le premier poste de dépense des ménages, il n'existe pas de meilleur moyen de leur rendre du pouvoir d'achat que d'en faciliter l'accès à des prix abordables. À quoi cela sert-il d'être assis sur un patrimoine qui prend de la valeur si on a dû, pour le constituer, se priver de trop de choses tout au cours de sa vie ? Bien sûr, la baisse des prix de l'immobilier doit passer par une augmentation de l'offre, quand même, et les professionnels du secteur qui réclament un nouveau plan d'aide tirent à boulet rouge sur un gouvernement qui ne leur a rien accordé ou presque, mais l'histoire a prouvé que si la multiplication des incitations fiscales contribue marginalement à augmenter l'offre, elle alimente surtout la hausse des prix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'effectivement, vous pensez que cette crise du logement peut avoir un visage positif dans l'hypothèse où elle ferait baisser les prix de l'immobilier ? Captain McBurnick écrit: il faut interdire les résidences secondaires dans les régions tendues. C'est un débat important. Ouais, Clamakin est un petit peu sceptique. Ainsi, moins de biens en construction, moins de biens dispo. Je ne vois pas donc comment on peut aller vers une baisse de prix de ce fait. Tu vois, bah, c'est aussi l'avis d'Idriss, hein. L'offre risque de baisser et ainsi entretenir la pénurie, et donc maintenir les prix, rien n'est certain. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je trouvais un peu optimiste le regard des échos, mais j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul. Non, car la crise tombe en même temps que les nouvelles contraintes environnementales sur la construction. Thorise, bon, bah, ça, les échos en parlaient aussi, c'est vrai. Si le prix baisse, écrit Vice, mais que pour acheter il faut faire un prêt avec un taux plus gros, bah ça change rien. Ouais, mais t'es assez sceptique hein, sur cette baisse des prix de l'immobilier. Qu'est-ce qu'il me reste ? Qu'est-ce que j'ai comme agenda aujourd'hui ? 14h30, j'ai rendez-vous chez le médecin. Certains vont dire, tu passes ta vie chez le médecin. Oui, c'est vrai que le corps est un peu fatigué en cette fin de saison. Donc j'ai encore rendez-vous chez le médecin à 14h30. J'en avais un autre hier en fin d'après-midi. Yes ! Et puis j'ai un rendez-vous important à 17h aussi. Est-ce que je vais réussir à trouver un moment pour faire une sieste ? Pas sûr. Quelle heure il est ? Midi. Non, ça va être chaud. Je sais pas. Peut-être plutôt courir. Enfin, à chaque fois je dis ça, puis ça, je finis à faire une sieste. On a trouvé ce qui plombe la sécu, dit Entropie. Ouais, je suis désolé, c'est un peu moi. Je vois qu'en ce moment, voilà, en train de réparer le corps fatigué. Bah lui, il est fatigué justement. Oh, cette transition, oh, cette masterclass. Ah non, mais parfois je m'étonne moi-même. C'est-à-dire, je me dis, ah, quand, c'est presque trop quoi. Lui, il est fatigué. En tout cas, son corps est fatigué. Et pour lui, finito el football. Voilà. Ibrahimovic, puisqu'il s'agit de lui, Zlatan Ibrahimovic, le grand, l'immense, le zlatanesque, l'homme aux aphorismes, et au but de karaté, eh bien, quitte, non pas son club, mais quitte le football. Voilà. Ibrahimovic, le leg d'une légende. Je ne vous ai pas mis de jaune fluo. Vous, hein, vous aurez noté qu'il n'y a pas de fluo, ce qui est très étrange sur cet article. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un article qui est très court. Et en fait, tout l'article est intéressant. Voilà. Alors, je vais vous en lire l'essentiel. Voilà. Ce qui va être une façon de rendre hommage à Zlatan Ibrahimovic. Je ne sais pas si certains ont vu les images, son émotion quand il a annoncé, quand il a dit au revoir à ses partenaires de l'AC Milan. C'était vraiment très, très beau à voir. Son émotion à lui, hein, les larmes qu'il retenait, la gorge nouée, et ces mêmes larmes dans les yeux de certains de ses coéquipiers, c'était très très beau et très très émouvant, quoi. Qu'on soit fan ou pas d'Ibrahimovic. Lisons ce petit article de Régis Testelin. Vaincu par les blessures, je parlais d'un corps fatigué, aura net l'article sur qui qu'il arrive. Zlatan Ibrahimovic dit au revoir au jeu et aux supporters de l'AC Milan. C'était dimanche soir à 41 ans, au bout de sa 24e saison professionnelle, dont 5 chez les Rossoneri, le club qu'il aura préféré. Un adieu déchirant, je vous le disais, les larmes aux yeux, un an après avoir gagné son 12e et dernier titre de champion, dont 5 en Italie, avec les deux clubs de Milan, 4 en France avec Paris, 2 aux Pays-Bas avec l'Ajax et 1 en Espagne avec le Barça. Formé au Malmö, FF, il a aussi joué à la Juve, à Manchester United. Son tour d'Europe fut celui d'une rockstar avec un détour par Los Angeles. Grand joueur, dit Yanis, bien sûr. Bien sûr. Après, il lui a manqué des choses, hein, bien sûr. Pas de Ligue des Champions, je crois, pas de titre mondial. Bon, je crois pas que la Suède ait été championne du monde, mais immense joueur. Ibra s'en va sur 32 trophées remportés dans sa carrière après près de 1000 matchs et plus de 500 buts. Voilà, une jolie moyenne. Sans la Coupe du Monde, ni le championnat d'Europe des Nations, trop compliqué à aller chercher seul ou presque avec sa Suède chérie. Un grand champion, a écrit Abarao, et il a l'humilité de reconnaître ses limites en s'arrêtant à temps. Sans Ligue des Champions aussi, hein. Un vide et un regret éternel pour cet avant-centre complet, doté d'un physique hors norme, 1m95-95 kg, agressif, puissant, malin, adroit, technique, imprévisible. Régulièrement entouré des meilleurs joueurs d'Europe et dirigé par les plus grands cadors du continent, il a quasiment toujours été au bon endroit, au bon moment, mais ne l'a jamais pourtant jamais gagné, cette maudite Ligue des Champions, parce qu'elle révélait certaines de ses limites, a-t-il souvent entendu, parce qu'il faut de la chance aussi en Coupe d'Europe, et parce que c'est comme ça surtout. Le Mondial des clubs 2009 avec le Barça et la Ligue Europa 2017 avec Manchester United restera donc parmi ses rares titres internationaux, mais il y a des joueurs qu'il est difficile de réduire à un palmarès, et Ibra en fait probablement partie. D'ailleurs, Deloyan nous propose une zlatanerie en écrivant « Ce n'est pas Zlatan qui quitte le football, c'est le football qui quitte Zlatan. » Zlatan n'est jamais monté sur le podium du Ballon d'Or, par ailleurs. Voilà. Mais il a su créer l'attente avant chacun de ses matchs, celle d'un geste dingue, imprévisible et imparable, d'un but unique, et quelques-uns des siens sont passés à la postérité. Ce slalom de 50 mètres en août 2004 sous le maillot de l'Ajax, au milieu de 6 joueurs de Breda martyrisés par ses dribbles et ses contre-pieds. Ce retourné acrobatique de 35 mètres avec la Suède en novembre 2012 qui le bat Joe Hart, le gardien de l'Angleterre. Ou ces fameux buts kung-fu inspirés de la passion qu'il avait pour les arts martiaux, inscrits avec la Suède, avec les Los Angeles Galaxy ou encore avec le PSG. Dans ce registre là il y avait lui et les autres, et dans son esprit aussi il y avait souvent lui et les autres. Il a régné sur le football suédois pendant 20 ans, c'était bien la moindre des choses, poser sa patte et laisser son empreinte partout où il est passé, tenter de faire la pluie et le beau temps dans chacun de ses clubs. Il a entraîné et inspiré des générations entières de footballeurs ayant partagé son vestiaire, fasciné par son charisme, par sa longévité aussi. Il en a gâché d'autres en préférant jouer pour lui plutôt qu'avec eux, mais il les a surtout fait gagner, gagnant leur reconnaissance avec. À Barcelone, il s'est fâché très fort contre Pep Guardiola, son entraîneur de l'époque, le jugeant à l'arrivée immature, lâche et incompatible avec des personnalités aussi fortes que la sienne. Et Paris, 2012 à 2016, c'est encore lui qui en parle le mieux. Il dit « Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende, vous connaissez la phrase ». Lâchait-il en quittant le club sur 4 titres de champion de France et 156 buts. Il y avait le joueur, il y avait ses punchlines, et il y avait un débat aussi. Et certains l'évoquent dans le chat. Ces zlataneries, ces aphorismes, ces sorties, prétention, second degré, arrogance, piège à gogo, il fallait paraît-il le connaître pour savoir que tout ça n'était que du vent, que des mots, et que derrière cette posture de mégalo, et là c'est le passage de l'article que je préfère, se cachaient les souffrances de l'enfance et de la fierté d'avoir pris sa revanche. Un jour, Zlatan, né d'un père bosnien de confession musulmane et d'une mère croate catholique, confia ceci. « Je suis né à Rosengard, un quartier pauvre de Malmö, où il y avait beaucoup de délinquance. Mon enfance a été complètement pourrie. Mon père était alcoolique, ma mère un cas difficile. Quand elles ont divorcé, j'avais seulement 2 ans. Il y a eu des moments où je n'avais rien à manger, pas d'endroit où vivre, alors je volais de la nourriture, des vêtements, une bicyclette pour aller aux entraînements. J'étais fou de foot, mais je n'avais pas de sous pour m'acheter des souliers ou un ballon. Je jouais dans la rue, pieds nus, et ça m'a permis de développer mes capacités. Aujourd'hui, mon nom brille. Pas nombril, hein. Mon nom brille. Mais on ne saura jamais tout ce que j'ai dû sacrifier et combien ce fut dur. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. J'aime bien ce passage. Voilà. Allez, on essaie de se trouver une petite compile. Début de Zlatan, c'est réclamé dans le chat. Puisque c'est réclamé, on le trouve. Bim, bim, bim. Compile Zlatan. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi aussi, je vais essayer de trouver une petite compile de Zlatan. David écrit, c'est très émouvant cette revanche qu'il a prise sur la vie. Tiens, j'ai un truc là. Les plus beaux buts de Zlatan Ibrahimovic. Ok, on se met ça? Bon, il y a 4 minutes, on va pas tout regarder. Hein. Bon appétit, Alexandra. A bientôt, à demain. Je serai là demain. Go.
Di Maria avec Lucas, Ibrahimovic, la frappe. Oh, Ibrahimovic, oh, Zlatan! Quelle frappe, quel but, quel coup de canon!
Lifts it into the area. Ibra scores! That is number 500 for Zlatan Ibrahimovic, and only he can get to 500.
Il faut toujours pour frapper le corner.
Oh, quel geste! Quel geste! L'égalisation de Zlatan Ibrahimovic, 23e minute.
Batte Ibra!
Och så försöker Ljungberg. Men det kommer på
det kommer inte. Och det är Zlatan Ibrahimovic.
Ibrahimovic ещё очень сложный финт, не даст свисток судья Ибрагимович. Ох, шедевр какой! Да, пусть он нарушил правила, я согласен с болельщиком Мирона.
Passons encore quelques passements de jambes, le centre, Ibrahimovic.
Oh, magnifique! Extraordinaire geste! Il nous aura tout fait dans sa carrière.
Pontius knocks it down, Corona. Ibrahimovic looking for the second chance. Score!
On s'enlace, enfin, on peut pas s'enlacer en fait, c'est incroyable.
Michel Sadiq, Ronaldinho, واه, ركرة خطيرة, إبراهيموفيتش, الحل, الحل عند السويدي إبراهيموفيتش.
واه.
Well, there's a long ball no, through. No. Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen!
C'est Bouger. Ayesak Yeon! Aktoïd, yes, goal! 29th minute à Belgique!
Swell, Swell, contre son premier centre.
Qu'est-ce qu'il était beau, ce centre.
Oh!
Le chef-d'œuvre, c'est Monsieur Chef-d'œuvre, Zlatan Ibrahimovic dans toutes les positions.
C'est quand tu dois faire une émission.
Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute.
En kvick fint och får in den nollen också. Och det är ett fantastiskt mål av Zlatan Ibrahimovic.
Zlatan Ibrahimovic qui est lancé dans la course. Le contrôle de la patrie de Zlatan qui s'emmène ce ballon. Oh, Zlatan Ibrahimovic. Mais quel enchaînement.
Allez, encore un petit dernier. Un petit dernier. Un petit dernier après celui-là.
Ibrahimovic.
On a bien fait. On a bien fait. Ah bon, non, on s'est fait les 4 minutes. Merde. Je pensais qu'il restait au moins 2 minutes. On s'est fait les 4 minutes. Ah, le dernier. Ah, le fou. Mais l'article en parlait de ce but. L'article en parlait de ce but. Je crois que c'est ça, ce slalom de 50 mètres en août 2004 sous le maillot de l'Ajax au milieu de 6 joueurs de Breda, martyrisé par ses dribbles et ses contre-pieds. C'était celui-là. Oh. Non, l'Apple Vision, on en parle dans un instant. Ça y est, je crois qu'on va finir avec ça. Wow. On s'est fait 4 minutes de but de Ibrahimovic. Voilà. Ça, c'est dans l'équipe aujourd'hui. Ça parle de Ligue 1, ça parle de Roland Garros, bien sûr. Hein, qu'est-ce qui se passe avec Zlatan? Je te rassure, déjà, il n'est pas mort. C'est juste qu'il a annoncé sa retraite sportive. Il arrête. 41 ans, le football, les blessures. Il a mal partout. Voilà. Donc, on lui a rendu hommage d'une autre façon. On a regardé quelques buts. Comme le dit Jutcher, même si on n'est pas passionné de foot, ce qui est mon cas, hein, je suis ni un passionné ni un spécialiste de foot. C'est juste incroyable à regarder. La pureté du geste. Voilà, c'était. Tu vois un but, tu sais que c'est signé Ibrahimovic, quoi. Magnifique. Ouais. Comme le dit Niagama, un grand monsieur, pas particulièrement fan de foot, tu parles de toi, mais il y a un impact sur tout, sur tout ce qu'on aime le foot ou non, qu'on aime ou pas. C'est les Gaules qui vont être contents de son départ, Katniss pas mal du tout. Est-ce qu'on a parlé de l'Apple Vision Pro? Vous êtes tellement nombreux à vouloir qu'on en parle. Eh bien, ça tombe bien, c'est dans un instant. Il reste deux jolis sujets. On va parler de Kick. Ouais. Quelques semaines que je surveille la presse nationale quotidienne française. Certains me demandent le lien de la vidéo. Hop, qu'on vient de regarder, je vous le mets. Le lien, il est ici, je viens de le coller dans le chat. Attendez, j'ai dû faire une connerie. Je vous le mets. Voilà, le lien sur YouTube. Voilà. Donc, plusieurs effectivement semaines que je surveille la presse française pour voir si eh bien, elle ne va pas évoquer cette plateforme de streaming qui se veut concurrente à Twitch. Vous en avez peut-être entendu parler, il s'agit de Kick. Et effectivement, dans le Figaro, dans les pages économie du Figaro, les pages saumon, on les appelle les pages saumon tout simplement parce qu'elles sont de couleur saumon, eh bien, il y a un article. J'étais assez étonné d'ailleurs que le Figaro y consacre un article, et en même temps c'est pas si surprenant que ça puisque le Figaro est un des journaux qui suivent le plus l'actualité numérique, c'est assez intéressant. Kick, la nouvelle plateforme venue concurrencer Twitch. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs, alors c'est une plateforme qui est critiquée par plein d'aspects, mais je vois des cornflakes, il part sur Kick, Sam, il y en a marre d'Amazon, je vois Abarao, Kick ou le désir des internautes de rejeter la censure absurde des mainstreams sur Internet. Et puis il y a Altalux à l'inverse qui dit « Ah, c'est la plateforme qui a été montée par les lobbies du casino, c'est ça ?» Qu'est-ce que c'est Kick? Le service de vidéo en direct mis sur un partage de revenus à l'avantage des vidéastes, parce que c'est un des intérêts de cette plateforme, c'est de reverser une part beaucoup plus importante des subs que Twitch. Ah, la scène, putain, pardon, excusez-moi. Merci Julo. Excuse-moi, heureusement que vous êtes là. Merci beaucoup. Paf, voilà. Donc c'est pas... ça, c'est un truc pour... un truc qui s'appelle le Figaro Emploi, mais c'est ça qui nous intéresse. Notre objectif est clair, donc c'est la parole à Kick, relever le défi que personne n'a jamais réussi à faire depuis une dizaine d'années, concurrencer Twitch. Après des tentatives de YouTube Gaming Live, de Facebook Gaming ou encore Mixer de Microsoft, un nouvel acteur se rêve en numéro 1 peut-être demain. du streaming. Il s'agit de Kick, plateforme de vidéo en direct lancée en décembre dernier. C'est pas très vieux, hein. Et les ambitions du dernier venu sont claires. Nous envisageons de capter 30% du marché du live streaming en 3 ans. C'est beaucoup, 30%. Pour remplir cet objectif, Kick dispose d'un avantage de taille, la promesse d'une meilleure rémunération pour les vidéastes, aussi appelés streamers, c'est nous. Sans créateur de contenu, il n'y a pas de plateforme, martèle Tim, qui est responsable francophone de Kick, qui explique 95% des abonnements sur Kick vont dans la poche des streamers. Nous ne prélevons que 5% des revenus, soit bien moins que Twitch, qui récupère, rappelle le Figaro, la moitié des gains des créateurs de contenu, c'est 50%. Dans vos subs pour Twitch, 50% pour le créateur de contenu, sauf pour certains streamers qui ont encore le split de tiers un tiers. Mais Kick, c'est 95% pour le streamer, 5% pour Kick. Aujourd'hui, pour l'instant, certains vont dire dans le chat, mais peut-être que demain, évidemment, quand ils auront atteint leur objectif et amené plein de streamers, streameuses chez eux, peut-être qu'ils vont changer le business model, hein. Comme dit Douzard, le business model de Kick est-il viable sur le long terme? Il me semble que Twitch ne l'est déjà pas. Twitch n'est pas bénéficiaire, effectivement. Alors, notamment en raison du coût de la bande passante. Tu as raison, Douzard. Bravo, Whisky. 337 écrit, mais comment il finance le stockage et la bande passante avec seulement 5% de prélevés sur les subs? Voilà. Pas viable du tout, estime la boy. Voilà. Docteur Blow. Non, c'est Chocorato qui a écrit le modèle est absolument pas viable, ça peut pas fonctionner sans l'argent qui est injecté par Stake. Alors les casinos derrière, ça, on va en parler bien sûr. C'est clairement pour faire venir les gens, ce 95,5 dit Oranet. Voilà. Bonjour à tous. Tout organisme devrait avoir un concurrent, ça évite un monopole abusif. Ça, SRX TV, ça, tu n'as pas tort. À quand Samuel sur Kick? Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Voilà. Alors, j'ai déjà suffisamment à régler du côté de mes activités en télé. Continuons donc. Donc les 5%, on en a parlé. C'est pas tout. Sur Kick, les streamers peuvent également conserver 100% des dons. Donc, je suppose que c'est quoi, est-ce que c'est considéré que les bits, c'est des dons? En tout cas, voilà. Également et des pourboires donnés par leurs abonnés et récupérer leur argent le jour même, c'est pas une fois par mois, c'est le jour même. La stratégie semble porter ses fruits. Alors là, vous allez m'aider pour les prononciations parce qu'il y a plein de streamers dont je ne connais pas les prononciations. Ed Craven, cofondateur de Kick, affirme que la plateforme est déjà rentable. Eux, ils affirment qu'ils sont déjà rentables 4 mois après leur création. Plus de 7 millions d'utilisateurs ont d'ores et déjà rejoint Kick. 10 millions de dollars ont été dépensés en 3 mois dans le monde, dit-il. La plateforme a reçu 80 millions de visiteurs au mois d'avril, des chiffres encourageants, mais qui restent très très loin de ceux réalisés par Twitch, explique le Figaro. La filiale d'Amazon qui cumule plus d'un milliard de visites en avril, donc 80 millions du côté de Kick, plus d'un milliard pour Amazon, pour l'instant, ça ne boxe pas du tout dans la même catégorie. Pour l'heure, deux grands noms de Twitch, alors est-ce que c'est vrai ça? Deux grands noms de Twitch ont déjà rejoint le service de vidéo en live. Le joueur d'échecs, c'est là où j'ai besoin de votre aide là. GM Ikaru, ça vous dit quelque chose, joueur d'échecs là? Moi je dis GM Ikaru, c'est japonais. Comment vous dites? Ikaru, ok. Donc vous connaissez. 1,8 million d'abonnés a annoncé migrer sur Kick en mars, vous le saviez ça? Quelques semaines plus tard, Show, le streamer français le plus suivi sur Twitch. Show, ça va? C'est comme ça qu'on dit? Show, il y a H1, je suis nul. Comment on dit? Show. Pff, putain, je suis nul. Comment on prononce? On dit Show ou juste Show? On dit Show H1? Je suis nul. Aidez-moi. On dit Show H1? Comme ça? J'avais pas mauvais? C'est bizarre. J'étais persuadé. Il y a quelqu'un qui me dit, Nico qui me dit non, c'est Show Cacao. Show H1? Ok. Alors Show H1, le streamer français le plus suivi sur Twitch. C'est vrai ça? Le Figaro nous dit que Show H1 est le plus suivi sur Twitch. Vrai ou pas vrai? Ouais, putain, si c'est vrai, je suis nul. C'est faux. C'est qui lui? Sur Call of Duty, le plus suivi sur Call of Duty, pas au total. Attendez, plein de messages. C'est faux, non. Le plus suivi sur Call of. Ok, d'accord, ok. Ok, ah bah ça, oui, mais ça, le Figaro dit pas. Eux, ils disent le plus suivi sur Twitch. Bon, j'étais un peu surpris quand même, parce que je me dis, merde. Voilà. Au nombre de subs, il l'était premier dans un moment. Il y a un moment, ok. 25 000 subs sur Twitch. 25 000 subs sur Twitch. 25 000 subs, c'est-à-dire... Quand vous dites 25 000 subs, c'est-à-dire... 25 000 subs. Quand vous dites... c'est-à-dire... 25 000 subs. Abonné. D'accord. Ah. Non, c'est juste... c'était pour un ami qui voulait savoir, d'accord. Ok. Ah, ok. Ah ouais. D'accord. Ok. Ok. Oh non, c'est juste parce que je... ok. Je vous fais... Ouais, ok. Je déconne, hein. Évidemment, je gagne beaucoup plus que ça sur Twitch, bien sûr. Donc, Show H1, le streamer français, blablabla, a officialisé sa venue sur la plateforme de vidéo en direct. Kick rentre désormais dans l'équation. Je deviens officiellement leur partenaire, a annoncé le créateur de contenu aux 742 000 abonnés. Follower, petite erreur, spécialiste du jeu Call of Duty. Voilà. Et vous, certains m'ont expliqué qu'il streamait sur les deux actuellement, sur Twitch et sur Kick. D'autres créateurs plus controversés comme Tuffer S. Putain, les prononciations, Samuel. Tuffer, il y a un S, Tuffer S, je sais pas. Ou Skuroz, spécialisé dans les casinos en ligne, ont ouvert leur chaîne sur Kick, car le service mise également sur les jeux d'argent et de hasard dont la diffusion est interdite sur la majorité des autres plateformes de streaming pour attirer les créateurs de contenu. On ne prononce pas le S, ok. Et pour cause, le service de vidéo en direct appartient à Stake, certains en parlaient, une importante société de casinos en ligne. Plusieurs streamers se sont plaints de la politique des conditions d'utilisation de Twitch jugées trop strictes, notamment en termes de bannissement, se défend le responsable francophone de la plateforme. Nos règles de la modération sont plus souples concernant les propos tenus, les contenus diffusés. Symbole de ces règles plus permissives, le vidéaste américain Adin Ross banni à plusieurs reprises sur Twitch pour propos homophobes. Ah. Le créateur de contenu a fait polémique dès son arrivée sur Kick en diffusant des extraits de sites pour adultes Pornhub. Ok. Une séquence qui aurait immédiatement engendré un bannissement de la filiale d'Amazon. Tu m'étonnes. Autant de règles de modération jugées trop complaisantes par les internautes. Face aux critiques, la plateforme assure améliorer ses conditions d'utilisation du service, se conformer aux exigences légales en matière de droits d'auteur et de discours haineux. De nombreuses améliorations sont à venir, assure d'ailleurs Kick. 5 nouveaux modérateurs ont été recrutés hier uniquement pour la partie France. À terme, la nudité et les sous-vêtements seront interdits. J'en déduis que la nudité aujourd'hui est autorisée. Ok. Pornhub connaît pas, me dit Crapkit. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Pas, si vous avez des vidéos à nous envoyer sur ce site qui doit être un site d'information, n'hésitez pas à mettre dans le chat. On me dit que David Lafarge est parti sur Kick. C'est Nico Manga qui me dit ça. Bah, Malo, mon aîné, va être déçu parce que Malo est un fan de l'ouverture des paquets de cartes Pokémon. C'est un streamer, Malo, puisqu'il vient faire des chroniques ici. À visage caché, de temps en temps, et c'est un viewer aussi. Et qui sub, Malo, il sub. Je vous lis. Vous en pensez quoi, vous ? Hein ? Vous en pensez quoi ? Hop, je vous lis, puis après on va aller voir le casque d'Apple, là. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Ne laisse pas Malo sur Kick, me dit Geekim. On me parle d'un documentaire pro-Kick, fait par Ahmed Indy sur YouTube, merci CSB. Tu pars pour combien ? L'argent n'est pas tout, en fait. On dit que tout le monde a un prix, c'est ça ? Moi je suis pas sûr de ça, en fait. Une vie, c'est court, hein. Il y a un moment, il faut pouvoir, une des manières dont on peut dire qu'on a réussi sa vie, c'est au soir de sa vie, quand ça s'arrête, pouvoir se regarder dans la glace et pouvoir se dire que ça va à peu près, quoi, qu'on a peut-être globalement fait plus de choses cool que de choses nazes, et qu'on n'a pas trop fait de mal et fait un peu de bien. Voilà, donc l'argent n'est pas tout. Si c'est vraiment, si Kik est vraiment une dinguerie en termes de contenu, je vois, quel que soit l'argent, le move est pas intéressant, quoi. Joli. Ah bon? Il y a Goblou qui me dit je pense personnellement que la plateforme à sauver, c'est YouTube. Attends, où est-ce que tu es? Qui perd énormément d'utilisateurs chaque mois. Je savais pas que YouTube perdait beaucoup d'utilisateurs. Tout le monde a un prix, Samuel, même toi, me dit Manka Zertux. Non, en fait, non. Non. Au soir de ta vie, encore une fois, tu te diras pas, putain, qu'est-ce qui a été réussi ma vie parce que je suis allé chercher 1 million sur Kik, quoi. Tu te dis, est-ce que j'ai été un ami correct? Est-ce que... tiens, j'ai un message important de quelqu'un que j'aime bien du boulot. Oh. Oh. Oh, il est très gentil. Je travaille à France Info avec des gens qui sont juste formidables. Voilà. Tout n'est pas de la. C'est pas qu'une histoire d'argent. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, au soir de ta vie, tu te poses, est-ce que tu as été un ami correct? Est-ce que tu as été un père à la hauteur? Est-ce que tu as été un. Éventuellement, si tu es marié, un amoureux à la hauteur de la personne avec qui tu étais? Un fils attentionné, enfin, etc. Vous avez compris le principe, quoi. Mais tu te dis pas, putain, je suis allé chercher 1 million sur Kik, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand ça s'arrête, quand tu sens que ça va s'arrêter, que tu te retournes et que tu dis, ok, ça allait, ou putain, j'ai quand même fait trop de dingueries, et si je pouvais refaire ça, je le ferais plus, quoi. Donc non, mon caser, je suis pas sûr que tout le monde a un prix. Je suis pas sûr. Et je pense que les gens qui le pensent se trompent. Ils se trompent sur le sens de la vie. Attention, hein, je dis pas que le confort matériel et financier n'est pas important, hein, mais on parle pas de quelqu'un qui est à la rue, qui crève la dalle, et donc qui pourrait représenter une subsistance. Hein. Là, quand tu me poses la question, tout le monde a un prix, même toi Samuel, c'est moi qui ai une situation matérielle qui est déjà confortable, est-ce que je pourrais aller sur Kik pour devenir riche, quoi, très riche, quoi. Bah, la réponse, elle est non, quoi. Il y a Valoroco666 qui dit « Je parle rarement, du coup je te lis, mais je confirme qu'avec l'âge, tu comprends que non, pas tout le monde a un prix, le temps et l'entourage devient beaucoup plus important. » Il y a Nikusa212 qui dit « Au soir de ta vie, avec 1 million, tu peux te dire que tu mets à l'abri toute ta famille pendant un certain temps. » Je pense qu'il y a plein d'énormes trafiquants de drogue qui se sont dit ça aussi, qui pouvaient commettre toutes les dingueries possibles et imaginables parce que dans leur tête, c'était pour assurer la sécurité de leur famille. Et du coup, tu vois, ça ne marche pas cet argument. Vous êtes plusieurs à dire ça. « Ouais, mais avec l'argent, je pourrais faire plein de trucs, construire des écoles ou des trucs du style. Hein. » Oh, je crois qu'il y a... Oui, on parle de l'essentiel. Solal!
Papa?
Oh, je suis trop content!
Papa?
Oui?
Tout
d'abord,
il m'ouvre un
chocobon. T'as mangé un chocobon?
Tout
d'abord. Mais où ça? Hello, Rodélia? Viens me faire un câlin. Tu m'as pas fait de bisous. Solal, 3 ans. Nous avons une petite visite, oui.
Avant peu, donner un chocolat.
Tu veux encore un chocolat?
Oui.
Dis-moi d'abord où tu as mangé ton chocobon. C'était à la maison avec Rodélia ou c'était à la petite forêt? C'est où?
Au Cobon Ivy.
Ah oui?
Oui.
Ah oui. T'as l'air heureux.
Oui.
T'es heureux?
Oui.
C'était bien ce matin?
Oui.
Qu'est-ce que t'as préféré ce matin? T'as regardé un épisode? Oh,
joué avec qui?
T'as joué avec qui?
Apolline.
Victoria.
Apolline et Victoria.
Oui.
C'est des filles.
Oui.
Elles sont gentilles.
Oui.
Ça va.
Oui, mais il y avait des ballons.
Il y avait des ballons.
Oui.
Et t'as pu... et elles t'ont prêté le ballon.
Oui.
Ah bon, ça va, alors elles sont gentilles. Toi, tu leur as prêté tes jouets.
Non, et pas des verres.
T'avais pas de jouets.
À prêter.
D'accord.
Mais elles m'ont prêté.
Elles t'ont prêté.
Oui. Voilà.
C'est bien de prêter aux autres un petit peu. Faut pas donner. T'es pas obligé de leur donner tes jouets. Mais c'est bien de prêter. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Tu prêtes, toi?
Oui.
T'es gentil.
Je prête.
Tu prêtes. C'est bien.
C'est quoi, prête?
Prêter, c'est quand on prête, on donne un jouet, mais pour pas longtemps, et après on le reprend. C'est ça, prêter.
Ok. Papa, dis caca au bébé.
Oui, tu peux dire au micro.
Caca. Oui.
Arrête, on va se faire ban. On va être obligé d'aller sur Kick. Tu veux aller qu'on aille sur Kick? Oui, quoi? Tu veux appuyer sur ça? Attends, je vais toucher.
No.
Sur... Tu veux le no ou le yes?
No.
Tu veux no?
No, 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 no.
C'est gentil. T'es un chou.
Papa?
Oui.
Fais quoi? Quand on dit go?
Go?
T'es où vive?
Ok, ok, ok.
Go, oui.
Bon, tu me fais un bisou? Je vais finir ma revue de presse. Est-ce que j'ai droit à un bisou? No! Un bisou? Un bisou? Un bisou? N-O! Allez, vas-y. Thank you, Antonia, pour deux visites. Merci, mon Solal. Je reviens dans un instant, les amis. Solal est en train de me dire au revoir. Tu dis au revoir à tout le monde? Tu dis au revoir. Oui, tu peux prendre un chocolat. Excusez-moi. Ah, on en était où? Oui, on parlait du sens de la vie et de l'argent, tout ça et tout. Eden Blaster, à propos, merci beaucoup pour les 10 abonnements. Merci Hugo, offert à la commu. Merci beaucoup, merci du soutien. Merci Mademoiselle Missy pour le 14e mois d'abonnement. Merci la même Z pour le 21e mois d'abonnement. Allez, je lis un ou deux messages et puis on va... Oui, mon chéri.
Goodbye.
Oh, goodbye. Oh, goodbye.
Au revoir, mon chéri.
Tu vas à la maison?
Oui. Okay.
Je t'aime très fort.
Papa?
Oui.
Moi,
je vais. Ok. À tout à l'heure, Solal. Petit chou, trop gentil. Vous voyez, par exemple, c'est tout con, mais là, vous me dites, par exemple, si, est-ce que tu serais prêt à aller sur Kick? Bon, évidemment, si Kick est le truc qu'on nous décrit là, avec un vrai problème de modération, des contenus de ouf, comment dire, un peu problématique, et que dans quelques années, revenant sur mon passé, sur Wikipédia, Solal ou Malo me dit « Mais alors pourquoi t'es allé sur Kick en vrai ?» Parce que ça avait l'air un peu chelou quand même, au niveau de l'argent des casinos en ligne, tout ça. Et puis les autres streamers, dont certains avaient quand même des propos, enfin on parlait de propos homophobes, tout ça. Et je dis quoi en fait? Ben, je dis ouais, parce que comme ça je me suis fait un max de thunes, mais vous inquiétez pas, du coup, comme ça fait plus de sous pour la famille, pour vous. Vous voyez, c'est pas terrible en fait. Enfin bon, voilà. Je sais pas. Bon, en tout cas, la question se pose pas aujourd'hui. Merci Milly pour l'abonnement. L'article n'est pas terminé d'ailleurs, et après on parle du casque d'Apple de VR. La modération. Ah, bah si, on a lu, putain, on a tout lu en fait. Voilà. Voilà. Après, peut-être que la plateforme va s'améliorer. En plus, Twitch n'est pas un endroit parfait non plus. Hein. Voilà. Enfin, à un moment, faut pas... c'est toujours pas blanc et noir. Voilà. Donc, ouais, faut regarder, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas. Moi, c'est pas. C'est une question que je me pose pas aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Sorn dit, c'est pas que ça, c'est aussi sortir du monopole Amazon. Une situation économique où il y a un monopole, de toute façon, c'est totalement naze. Donc, qu'il y ait une concurrence, pour le coup, ça, c'est un aspect que je trouve très intéressant. Ça, c'est vrai. Voilà. Le partage des revenus aussi. Alors, vous êtes plusieurs à évoquer le partage des revenus qui est juste insane sur Kick, dans le partage de la richesse produite. Bon, la question, c'est est-ce que c'est tenable financièrement avec le coût de la bande passante, quoi. Voilà. Est-ce que dans un an ça devient pas dans un an, dans deux ans on n'arrive pas au même partage de revenus quoi. Merci Sabrignata pour le 11e mois d'abonnement. Merci David pour le message. Kafkalino écrit: beaucoup de streamers tryhard 6 heures par jour pour se faire 300 balles à la fin du mois pour améliorer leur RSA. Ça aussi, c'est la réalité. Donc, que Amazon prenne plus de la moitié de ça, est-ce moral? Alors, c'est... ça pose un problème. Après, quand dans cette même équation, tu rajoutes une info que tu ne mets pas là, à savoir que à ce jour, si mes infos sont bonnes, Twitch n'est pas bénéficiaire, en raison notamment des coûts de service et du coût de la banque passante, bah, comment tu fais quoi ? C'est-à-dire comment que le risque aussi, si tu partages davantage les revenus, c'est que Twitch mette la clé sous la porte. Quoi. Donc, tu vois ? Allez, on finit avec, je pense que certains articles attendent l'article avec impatience, avec cet article du Parisien sur, alors pas sur la météo là, hop, qui fait la une ce matin, mais sur le nouveau casque, pas le nouveau casque, d'ailleurs le premier casque de VR, de réalité virtuelle d'Apple, qui était très attendu, qui a été annoncé hier soir. On a parlé d'ailleurs ce matin sur France Info dans la matinale avec l'équipe, que j'adore. J'adore cette équipe, j'adore les gens avec qui je bosse, trop de chance. Lotil31, merci pour le Prime. Et dont le Parisien parle ce matin. Il faut savoir que le Parisien, c'est un des derniers journaux à aller à l'imprimerie, c'est-à-dire dans la soirée. Oui, VR, de réalité mixte, on va en parler, vous avez raison. Merci Martial. Le Parisien, qui partage ça avec l'équipe, je crois, a son propre système d'imprimerie. Bref, je vous passe les détails, mais... Le dernier journal à partir à l'imprimerie dans la soirée, donc le dernier à pouvoir rajouter des informations quand ça tombe comme ça en soirée. Voilà, ça c'est une particularité du Parisien, il faut le savoir. D'autres journaux comme La Croix, comme Libération boucle, c'est le terme consacré plus tôt, et du coup parfois il y a des infos qui sont tombées dans la soirée que vous n'avez pas dans certains quotidiens et qui peuvent être dans le Parisien. Donc du coup le Parisien est le seul journal à en parler ce matin. Apple lance le casque Vision Pro. Le géant californien a donc dévoilé ce lundi, c'était hier soir, un casque de réalité mixte. Vous avez raison, le mot mixte est important. Lors de sa conférence annuelle des développeurs, son adoption par le grand public pourrait prendre des années. Pourquoi ? Parce que, un, ça coûte un bras, enfin deux en même, et deux, bah les applications sont peut-être pas encore fofolles, mais vous allez me dire. Kalindi, merci beaucoup pour le 22e mois, c'est quand même beaucoup. Sbulsan, merci pour le 6e mois d'abonnement. Et je kiffe ton message, merci beaucoup. Lisons. Plein les mirettes, mais pas pour tout de suite, ni pour tout le monde. Apple a donc mis fin lundi à un feuilleton qui dure depuis des années en lançant enfin son casque de réalité mixte, baptisé Vision Pro. Vision Pro, je ne sais pas comment on dit, si on met l'accent ou pas. L'audience initiée de la conférence annuelle des développeurs a laissé éclater sa joie, mais aussi des interrogations, puisque le grand public devra un petit peu patienter pour mettre sur son nez ce casque au potentiel séduisant. La réalité mixte mélange, pour ceux qui n'ont pas les données, la réalité mixte, qui est donc la technologie de ce casque, mélange la réalité virtuelle, ça vous connaissez, qu'on peut avoir dans les casques comme Oculus, hein, c'est ça, par exemple. Donc mélange la réalité virtuelle, ah bah d'ailleurs le Parisien en parle, la technologie des casques Oculus Quest ou le PSVR de Sony à la réalité augmentée, la technologie du jeu Pokémon Go, résume le Parisien. Ce casque de XR, donc réalité mixte, superpose des éléments virtuels sur notre environnement proche, en l'occurrence des applications avec un effet immersif. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur internet, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Une molette permet de passer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle, soit une immersion complète. On a le sentiment que c'est très naturel, promet Apple. Le casque Vision Pro se pilote à la voix, avec les yeux, avec les mains. Hein. C'est vrai, là aussi, les vidéos sont assez incroyables. Il n'y a pas de manette, il n'y a pas de souris. L'assistant vocal Siri peut ouvrir ou fermer les applis. Merci beaucoup, Lightchin, pour le 11e mois d'abonnement, et Red Junk, que je n'avais pas vu, pour le Prime. L'écueil de l'isolement est même évité, car le monde extérieur peut savoir où se dirigent vos yeux, et vous pouvez voir les personnes autour de vous ou les obstacles, ça aussi c'est bien, en vous déplaçant. Aluminium, verre poli, fibre de carbone ultra légère, son look digne d'un film de science-fiction le place d'emblée dans la droite lignée des produits ultra design d'Apple, hein, c'est une des grandes forces de la firme. Et sous le capot, la marque à la pomme affiche une fiche technique et 5000 brevets. 5000 brevets 5000 brevets à faire rêver les développeurs et les fans de technologie pure qui sont la première cible du casque. Il embarque deux processeurs, un dédié uniquement à la panoplie de composants les plus gourmands, deux caméras, six microphones, cinq capteurs, deux écrans micro OLED qui affichent des vidéos en 4K avec une luminosité élevée et la bagatelle de 23 millions de pixels. Des mini haut-parleurs qui assurent la couverture spatiale de l'audio en fonction du bruit environnant. Une autonomie, ça c'est une faiblesse pour l'instant, sur batterie de 2 heures avec la possibilité de le laisser brancher sur secteur. Apple destine son Vision Pro à quel usage ? Plusieurs usages à moyen terme, dont le divertissement dans les transports ou sur le canapé, avec une expérience jamais vue sur le marché, dit Apple, pour des films en 3D, une expérience audio unique. Le gaming n'est pas oublié, avec un écran supplémentaire pour les fans de jeux vidéo. Je finis l'article et je dis vos commentaires parce qu'à mon avis, je pense que vous êtes déjà pas mal renseigné là-dessus. Apple pourrait-il réussir à faire du marché de la VR une réalité ? Les ventes de casques plafonnent en effet à une dizaine de millions d'unités livrées par an. Après avoir donné le ton sur le marché des tablettes avec son iPad, popularisé les écouteurs sans fil avec les AirPods, la multinationale s'attaque à un défi colossal avec un tarif qui refroidira certains technophiles et surtout le grand public, $3499. Salut French Yu-Gi-Oh! Soit un prix français proche de 4000€ avec les taxes, et il ne sera disponible aux États-Unis que début 2004, donc vous ne pouvez pas l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Eden Blaster n'avait pas le prix, et donc du coup, il dit, ah ok, d'accord. Voilà. Bon, après, ça va baisser. Hein, après. 4000€. Salut, dit le galant. Voilà. Ah ouais, ah, vous êtes... J'ai dit 2004, putain, Sam. Désolé, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. 2024, bien sûr. Ok. Le prix d'une moto, comme ça on sait que Pac Superman est un motard, enfin, j'imagine. D'une moto sympa, même. Vous remarquerez qu'ils n'ont parlé que d'aucun jeu pour l'instant, me dit DJ Boulette. Alors, on parle des utilisations en VR. Joe Elastico nous rappelle que la VR a une vraie utilisation dans l'industrie, par exemple, pour simuler une production. Voilà. Je crois qu'en médecine, il y a des applications qui peuvent être très intéressantes aussi. Hein. Apple et gaming, ça va pas ensemble. Le décret de Kiné 22, de toute façon. Je vous lis, puis après on fait un raid, puis après je vais faire du sport ou dormir. Faire du sport. Faire un peu de sport. Ouais, je suis pile poil, je suis bien là. Faire du sport. C'est pas un casque gaming, dit Blaster. Ouais, mais c'est Apple du coup qui en parle, donc c'est un peu de leur faute quoi. Les gars, c'est normal que ce soit si cher, dit French Wanderers. C'est normal, c'est le prix de la V1, ils vont sortir une version SE dans quelques années. ADPL, c'est à la fois excitant et très dystopique, je trouve. On se croirait dans Black Mirror. Les vidéos sont assez impressionnantes. Hein. Les vidéos qu'Apple a mis en ligne, vous pouvez aller voir. Vous tapez donc Vision Pro sur YouTube ou sur Google, vous allez voir. Est-ce que le casque fait le café, demande Zeratul. Bon, il est évident que moi, je n'achèterai ce genre d'objet que si ça fait le café, quoi. Évidemment. Combien de brevets ? Ouais, c'est fou, hein ? 5000 brevets. C'est dingue. Alors, certains disent arrêtez avec la technologie à tout craint, là. The Dams 93, on nous parle de diminuer notre consommation et voilà un nouveau gadget hors de prix, dévastateur pour la planète. Bon, si j'étais coquin, je dirais bon, s'il est hors de prix, du coup, les gens vont pas trop l'acheter, donc il sera moins dévastateur. Tant mieux qu'il soit hors de prix, pour le coup, pour la planète, hein. Sans compter l'impact social de voir tout le monde casqué dans la rue. Je suis pas sûr que ce soit pour mettre dans la rue, en fait. Hein. Rue. 4000€, ça fait combien de kebabs ? Choupi 42. Moi, j'ai un peu perdu le sens des réalités, parce que vous savez, je travaille à la télévision, donc je pense que 4000€, ça fait... j'espère que je vais pas trop me tromper, mais... Attends, je sais jamais combien valent les trucs. Je pense que 4000€, ça fait 2 kebabs, je pense. 2 kebabs ? Ça dépend, sauce blanche, sauce... correcte, tout ça. Non, en vrai, j'ai un vrai don pour deviner le... J'ai un seul super pouvoir, j'en ai qu'un. je devine le prix des choses. Quand, c'est un jeu à la maison, je suis très fier. Quand Hélène, mon amoureuse, me dit tiens, ça, à ton avis, ça coûte combien ? J'ai un petit logiciel dans la tête. C'est le seul truc que je sais faire. Je trouve le prix. Je trouve le prix, je me gourre. C'est très rare, quoi. C'est une dinguerie. Voilà. Je sais pas. J'ai un super pouvoir pour ça, quoi. Il n'y avait pas un jeu avant Atari, il y a très longtemps, il fallait deviner le prix de trucs qui étaient montrés, là, dans des boîtes, je sais pas quoi. Putain, mais j'aurais tout cassé, quoi. Voilà. C'est le juste prix ? Ah, c'est ça ? Mais je suis super fort pour ça, quoi. En fait, j'arrive à trouver le prix. Alors, je mets plein de données dans ma petite tête, dans l'équation, voilà, sur le public à qui ça s'adresse. Est-ce qu'on est un marché de concurrence ou pas, voilà, plein de trucs. Voilà. Et je mets, en tout cas, j'arrive à trouver le prix que ça devrait valoir dans ma tête. Et du coup, après, par rapport à la marque, par rapport à la démarche de prix de l'entreprise que j'essaie d'imaginer, j'arrive à trouver le prix que ça peut être vendu, quoi. Et je suis pas trop mauvais, en fait. Pas trop mauvais là-dessus. Voilà. Donc, j'ai pas complètement perdu le sens de la réalité. Pour l'instant, évidemment. Oh putain, il y a Bichard qui m'a eu là. Bichard, bien joué. Bon, ouais, mais je suis vieux, c'est pour ça. J'ai vachement bossé. Et puis c'est un cadeau. Mais bien vu. D'ailleurs, on va. bien vu, Bichard, bien vu. Théoui, merci pour le Prime. Bien joué. Yassef qui dit, remarque, un kebab en hypercentre parisien, 2000 euros, c'est cohérent. Oh, les méchants. Il y a Milly qui dit, oui, il trouve le juste prix, mais en francs. En ancien franc même, tu pourrais dire. Vous moquez, mais bon, allez, moquez-vous. Parfois, souvent même, je calcule les trucs en francs. Voilà, c'est comme, c'est les vieux, ils font ça, voilà. Mon papa, il, souvent, quand on parlait de sommes, il disait... Putain, mais en ancien franc, ça fait combien ? Ça fait what million, quoi. Et moi, je fais ça maintenant. Je trouve ça trop mignon. Maintenant, c'est moi qui suis mignon. Et quand mon épouse me dit, tiens, bah, ça coûte ça. Et je dis, putain, mais en franc, tu te rends compte ? Ça fait ça, quoi. Et... Parce qu'en fait, on a perdu, quoi. Je trouve le sens du coût des choses. Moi, du coup, je mets en franc, je fais putain. Pardon, excusez-moi. Ouais, le Neuralink, French, on en a parlé récemment. Ouais. Ouais. Merci Bichard, c'est gentil. Merci de ta compréhension, mais bien vu. On a une petite blague avec Bichard dans en one-to-one, là. Convertis ton salaire en francs aussi. Ah ouais, je fais ça aussi parfois. Ouais, je fais ça. Ouais, David, ce souvenir avec Daniel est venu, il est fou. Les A, comme dit Anonyme 31. Ah, la conversation ancestrale, ça nous ramène au bas. Vous savez quoi ? Ça me fait penser de remercier les modérateurs. Je ne vous remercie pas assez. Anonyme 31, Captain Mike Biernik, Julo 18, Xineco. Et je vois les amis de la chaîne VOD qui sont là. VOD Samuel, merci beaucoup. Et Nightbot, bien sûr, vous êtes formidables. Bon, allez Samuel. Objectif, ne pas aller dormir. Allez, faire un petit. Je vais courir un coup. Je vais fourrir un peu. Un coup. Je ne vais pas fourrir. Je vais courir. On ne peut pas fourrir tous les jours. Je vais aller courir. Après, j'ai rendez-vous chez le médecin. Après, j'ai un rendez-vous très important à 17h pour mon avenir professionnel. Et après, je retrouve les enfants. Voilà, quoi. Voilà. Comment ça, le tatouage ? Ah, mais quand je fais ça. Ah ouais. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Ok. C'est vrai que je suis un petit peu partout tatoué. Comme dit Mazamot, tu dis quand même beaucoup putain, ma fille de 3 ans souligne que tu vas devoir mettre beaucoup de sous dans le pot. Pardon. Et l'annonce à 19h. À 19h, il y a une annonce de ouf sur, non pas sur scène, je ne serai pas en stream, mais sur Twitter, 19h, je vais annoncer une dinguerie. Allez voir ce soir. Une dinguerie. Bienvenue sur CNews. Mais non, vous êtes con. 19h sur Twitter, annonce d'une dinguerie. Voilà. On se laisse sur quoi ? Ben, on se laisse sur un petit quoi ? Un petit raid ? Allez, c'est parti pour un petit raid. Je vous mets deux minutes. Putain, j'arrive plus à parler. Peut-être qu'il faudrait que j'aille dormir quand même. 2 minutes de musique Et on s'est calé un truc qui avait l'air sympa tout à l'heure. 2 minutes de musique, 2 minutes de pub, max, pas une seconde de plus. Ah putain, ouais, j'ai oublié Le Monde. Ouais, Pépin Camille, c'est vrai, j'avais des trucs sympas dans Le Monde. Mais j'ai trop envie d'aller courir. Donc je vais aller courir, il fait trop beau. Et dans 2 minutes, on fait un raid, ok ? À tout de suite, bande de belles personnes. Putain, je suis au bout du rôle. À tout de suite.